Cet enregistrement est hébergé sur Notes du Mont-Royal dans le cadre d'un exposé gratuit sur la littérature.
Alfred de Vigny, Laurette ou le cachet rouge. De la rencontre que je fis un jour sur la grande route. La grande route d'Artois et de Flandre est longue et triste. Elle s'étend en ligne droite, sans arbres, sans fossés, dans des campagnes unies et pleines d'une boue jaune en tout temps. Au mois de mars 1815, je passais sur cette route et je fis une rencontre que je n'ai point oubliée depuis. J'étais seul, j'étais à cheval, j'avais un bon manteau blanc, un habit rouge, un casque noir, des pistolets et un grand sabre. Il pleuvait à verse depuis 4 jours et 4 nuits de marche, et je me souviens que je chantais Joconde à pleine voix. J'étais si jeune. La maison du roi, en 1814, avait été remplie d'enfants et de vieillards. L'Empire semblait avoir pris et tué les hommes. Mes camarades étaient en avance sur la route, à la suite du roi Louis XVIII. Je voyais leurs manteaux blancs et leurs habits rouges tout à l'horizon, au nord. Les lanciers de Bonaparte, qui surveillaient et suivaient notre retraite pas à pas, montraient de temps en temps la flamme tricolore de leurs lances à l'autre horizon. Un fer perdu avait retardé mon cheval. Il était jeune et fort, je le pressais pour rejoindre mon escadron. Il partit au grand trot. Je mis la main à ma ceinture, elle était assez garnie d'or. J'entendis résonner le fourreau de fer de mon sabre sur l'étrier, et je me sentis très fier et parfaitement heureux. Il pleuvait toujours, et je chantais toujours. Cependant, je me tus bientôt, ennuyé de l'entendre que moi, et je n'entendis plus que la pluie et les pieds de mon cheval qui pataugeaient dans les ornières. Le pavé de la route manqua, j'enfonçais, il fallut prendre le pas. Mes grandes bottes étaient enduites en dehors d'une croûte épaisse de boue jaune comme de l'ocre. En dedans, elles s'emplissaient de pluie. Je regardais mes épaulettes d'or toutes neuves, ma félicité et ma consolation. Elles étaient hérissées par l'eau. Cela m'affligea. Mon cheval baissait la tête. Je fis comme lui. Je me mis à penser et je me demandais pour la première fois où j'allais. Je n'en savais absolument rien, mais cela ne m'occupa pas longtemps. J'étais certain que mon escadron étant là, là aussi était mon devoir. Comme je sentais en mon cœur un calme profond et inaltérable, je rendis grâce à ce sentiment ineffable du « devoir » avec un grand D, et je cherchais à me l'expliquer. Voyant de près comment des fatigues inaccoutumées étaient gaiement portées par des têtes si blondes ou si blanches, comment un avenir assuré était si cavalièrement risqué par tant d'hommes de vie heureuse et mondaine, et prenant ma part de cette satisfaction miraculeuse que donne à tout homme la conviction qu'il se peut soustraire à nul des dettes de l'honneur, je compris que c'était une chose plus facile et plus commune qu'on ne pense que l'abnégation. Je me demandais si l'abnégation de soi-même n'était pas un sentiment né avec nous. Ce que c'était que ce besoin d'obéir et de remettre sa volonté en d'autres mains comme une chose lourde et importune. D'où venait le bonheur secret d'être débarrassé de ce fardeau? Et comment l'orgueil humain n'en était jamais révolté? Je voyais bien ce mystérieux instinct lier de toutes parts les peuples en de puissants faisceaux, mais je le voyais nulle part aussi complète et aussi redoutable que dans les armées, la renonciation à ses actions, à ses paroles, à ses désirs et presque à ses pensées. Je voyais partout la résistance possible et usitée, le citoyen ayant en tout lieu une obéissance clairvoyante et intelligente, qui examine et peut s'arrêter. Je voyais même la tendre soumission de la femme finir où le mal commence à lui être ordonné, et la loi prendre sa défense. Mais l'obéissance militaire, passive et active en même temps, recevant l'ordre et l'exécutant, frappant les yeux fermés comme le destin antique. Je suivais dans ses conséquences possibles cette abnégation du soldat, sans retour, sans condition, et conduisant quelquefois à des fonctions sinistres. Je pensais aussi, en marchant au gré de mon cheval, regardant l'heure à ma montre et voyant le chemin s'allonger toujours en ligne droite, sans un arbre et sans une maison, et couper la plaine jusqu'à l'horizon comme une grande raie jaune sur une toile grise. Quelquefois la raie liquide se délayait dans la terre liquide qui l'entourait, et quand un jour un peu moins pâle faisait briller cette triste étendue de pays, je me voyais au milieu d'une mer bourbeuse, suivant un courant de vase et de plâtre. En examinant avec attention cette raie jaune de la route, j'y remarquai à un quart de lieue environ un petit point noir qui marchait. Cela me fit plaisir, c'était quelqu'un. Je n'en détournai plus les yeux. Je vis que ce point noir allait comme moi dans la direction de l'île et qu'il allait en zigzag, ce qui annonçait une marche pénible. Je hâtai le pas et je gagnai du terrain sur cet objet qui s'allongea un peu et grossit à ma vue. Je repris le trot sur un sol plus ferme et je crus reconnaître une sorte de petite voiture noire. J'avais faim, j'espérais que c'était la voiture d'une cantinière, et considérant mon pauvre cheval comme une chaloupe, je lui fis faire force de rame pour arriver à cette île fortunée dans cette mer où il s'enfonçait jusqu'au ventre quelquefois. À une centaine de pas, je vins à distinguer clairement une petite charrette de bois blanc couverte de trois cercles et d'une toile cirée noire. Cela ressemblait à un petit berceau posé sur deux roues. Les roues s'embourbaient jusqu'à l'essieu. Un petit mulet qui les tirait était péniblement conduit par un homme à pied qui tenait la bride. Je m'approchai de lui et le considérai attentivement. C'était un homme d'environ 50 ans, à moustache blanche, fort et grand, le dos voûté à la manière des vieux officiers d'infanterie qui ont porté le sac. Il en avait l'uniforme, et l'on entrevoyait une épaulette de chef de bataillon sous un petit manteau bleu court et usé. Il avait un visage endurci, mais bon, comme à l'armée, il y en a tant. Il me regarda de côté sous ses gros sourcils noirs et tira lestement de sa charrette un fusil qu'il arma en passant de l'autre côté de son mulet dont il se faisait un rempart. Ayant vu sa cocarde blanche, je me contentai de montrer la manche de mon habit rouge, et il remit son fusil dans la charrette en disant « Ah, c'est différent. Je vous prenais pour un de ces lapins qui courent après nous. Voulez-vous boire la goutte ?»« Volontiers, » dis-je en m'approchant. « Il y a 24 heures que je l'ai bu. » Il avait à son cou une noix de coco très bien sculptée, arrangée en flacons, avec un goulot d'argent et dont il semblait tirer assez de vanité. Il me la passa et j'y bus un peu de mauvais vin blanc avec beaucoup de plaisir. Je lui rendis le coco. « À la santé du roi, » dit-il en buvant. « Il m'a fait officier de la Légion d'honneur et il est juste que je le suive jusqu'à la frontière. Par exemple, comme je n'ai que mon épaulette pour vivre, je reprendrai mon bataillon après, c'est mon devoir. » En parlant ainsi comme à lui-même, il remit en marche son petit mulet, en disant que nous n'avions pas de temps à perdre. Et comme j'étais de son avis, je me remis en chemin à deux pas de lui. Je le regardais toujours sans questionner, n'ayant jamais aimé la bavarde indiscrétion assez fréquente parmi nous. Nous allâmes sans rien dire durant un quart d'heure de lieue environ. Comme il s'arrêtait alors pour faire reposer son pauvre petit mulet, qui me faisait peine à voir, je m'arrêtai aussi et je tâchais d'exprimer l'eau qui remplissait mes bottes à l'écuyère comme deux réservoirs où j'aurais eu les jambes trempées. « Vos bottes commencent à vous tenir aux pieds, » dit-il. « Il y a 4 nuits que je ne les ai quittées, » lui dis-je. « Bon, en 8 jours, vous n'y penserez plus, » reprit-il avec sa voix enrouée. « C'est quelque chose que d'être seul aller dans des temps comme ceux où nous vivons. « Savez-vous ce que j'ai là-dedans ?»« Ah, non, lui dis-je, c'est une femme. » Oh, je dis « Ah !» sans trop d'étonnement, et je me remis en marche tranquillement au pas. Il me suivit. « Cette mauvaise brouette-là m'a pas coûté bien cher, » reprit-il, « ni le mulet non plus, mais c'est tout ce qu'il me faut, quoique ce chemin-là soit un ruban de queue un peu long. » Je lui offris de monter mon cheval quand il serait fatigué. Et comme je ne lui parlais que gravement et avec simplicité de son équipage, dont il craignait le ridicule, il se mit à son aise tout à coup, et s'approchant de mon étrier, me frappa sur le genou en me disant « Eh bien, vous êtes un bon enfant, quoique dans les rouges. » Je sentis dans son accent amer, en désignant ainsi les 4 compagnies rouges, combien de préventions haineuses avaient donné à l'armée le luxe et les grades de ce corps d'officier. « Cependant, ajouta-t-il, je n'accepterai pas votre offre, vu que je ne sais pas monter à cheval et que ce n'est pas mon affaire à moi. » « Mais, commandant, les officiers supérieurs, comme vous, ils sont obligés. Bah, une fois par an, à l'inspection, et encore sur un cheval de louage. Moi, j'ai toujours été marin et depuis fantassin. Je ne connais pas l'équitation. » Il fit 20 pas en me regardant de côté, de temps en autre, comme s'attendant à une question. Et comme il ne venait pas un mot, il poursuivit. « Vous n'êtes pas curieux, par exemple. Cela devrait vous étonner, ce que je dis là. « Je m'étonne bien peu, dis-je. Oh, cependant, si je vous contais comment j'ai quitté la mer, nous verrions. Eh bien, repris-je, pourquoi n'essayez-vous pas? Cela vous réchauffera, et cela me fera oublier que la pluie m'entre dans le dos et ne s'arrête qu'à mes talons. » Le bon chef de bataillon s'apprêta solennellement à parler, avec un plaisir d'enfant. Il rajusta sur sa tête le shako couvert de toile cirée, et il donna ce coup d'épaule que personne ne peut se représenter s'il n'a servi dans l'infanterie, ce coup d'épaule que donne le fantassin à son sac pour le hausser et alléger un moment son poids. C'est une habitude du soldat qui, lorsqu'il devient officier, devient un tic. Après ce geste convulsif, il but encore un peu de vin de son coco, donna un coup de pied d'encouragement dans le ventre du petit mulet, et commença. Histoire du cachet rouge. Vous saurez d'abord, mon enfant, que je suis né à Brest. J'ai commencé par être enfant de troupe, gagnant ma demi-ration et mon demi-prêt dès l'âge de 9 ans, mon père étant soldat aux gardes. Mais comme j'aimais la mer, une belle nuit, pendant que j'étais en congé à Brest, je me cachai à fond de cale d'un bâtiment marchand qui partait pour les Indes. On ne m'aperçut qu'en pleine mer, et le capitaine aima mieux me faire mousse que de me jeter à l'eau. Quand vint la Révolution, j'avais fait du chemin, et j'étais à mon tour devenu capitaine d'un petit bâtiment marchand assez propre, ayant écumé la guerre pendant 15 ans. Comme l'ex-marine royale, vieille bonne marine, ma foi, se trouva tout à coup dépeuplée d'officiers, on prit des capitaines dans la marine marchande. J'avais eu quelques affaires de flibustier que je pourrais vous dire plus tard, mais on me donna le commandement d'un brick de guerre nommé le Marat. Le 28 Fructidor 1797, je reçus l'ordre d'appareiller pour Cayenne. Je devais y conduire 60 soldats et un déporté qui restait des 193 que la frégate l'Indécane avait pris à bord quelques jours auparavant. J'avais ordre de traiter cet individu avec ménagement, et la première lettre du directoire en renfermait une seconde, scellée de 3 cachets rouges, au milieu desquels il y en avait un démesuré. J'avais défense d'ouvrir cette lettre avant le premier degré de latitude nord, du 27 degré au 28e de latitude, c'est-à-dire près de passer la ligne. Cette grande lettre avait une figure toute particulière. Elle était longue et fermée de si près que je ne pus rien lire entre les angles ni à travers l'enveloppe. Ben, je ne suis pas superstitieux, mais elle me fit peur, cette lettre. Je la mis dans ma chambre, sous le verre d'une mauvaise petite pendule anglaise clouée au-dessus de mon lit. Ce lit-là était un vrai lit de marin, comme vous savez qu'ils sont. Mais je ne sais pas ce que je dis. Vous avez tout au plus 16 ans, vous ne pouvez pas avoir vu ça. La chambre d'une reine ne peut pas être aussi proprement rangée que celle d'un marin, soit dit sans vouloir vous vanter. Chaque chose a sa petite place et son petit clou. Rien ne remue. Le bâtiment peut rouler tant qu'il veut sans rien déranger. Les meubles sont faits selon la forme du vaisseau et de la petite chambre qu'on a. Mon lit était un coffre. Quand on l'ouvrait, j'y couchais. Quand on le fermait, c'était mon sofa et j'y fumais ma pipe. Quelquefois, c'était ma table. Alors on s'asseyait sur 2 petits tonneaux qui étaient dans la chambre. Mon parquet était ciré, frotté comme de l'acajou, et brillant comme un bijou, un vrai miroir. Oh, c'était une jolie petite chambre. Et mon brick avait bien son prix aussi. On s'y amusait souvent d'une fière façon, et le voyage commença cette fois assez agréablement, si ce n'était... Mais n'anticipons pas. Nous avions un joli vent nord-nord-ouest, et j'étais occupé à mettre cette lettre sous le verre de ma pendule, quand mon déporté entra dans ma chambre. Il tenait par la main une belle petite de 17 ans environ. Lui me dit qu'il en avait 19. Beau garçon, quoiqu'un peu pâle et trop blanc pour un homme. C'était un homme, cependant, et un homme qui se comporta dans l'occasion mieux que bien des anciens n'auraient fait, vous allez voir. Il tenait sa petite femme sous le bras. Elle était fraîche et gaie comme une enfant. Ils avaient l'air de 2 tourtereaux. Ça me faisait plaisir à moi, voilà. Je leur dis « Eh bien, mes enfants, vous venez faire visite au vieux capitaine? C'est gentil à vous. Je vous emmène un peu loin, mais tant mieux, nous aurons le temps de nous connaître. Je suis fâché de recevoir madame sans mon habit, mais c'est que je cloue là-haut cette grande coquine de lettres. Si vous voulez m'aider un peu. » Ça faisait vraiment de bons petits-enfants. Le petit mari prit le marteau et la petite femme les clous, et il me les passait à mesure que je les demandais. Et elle me disait... à droite, à gauche, capitaine, tout en riant, parce que le tangage faisait balloter ma pendule. Je l'entends encore d'ici avec sa petite voix, à gauche, à droite, capitaine. Elle se moquait de moi. Ah, je dis petite méchante, je vous ferai gronder par votre mari, allez. Alors elle lui sauta au cou et l'embrassa. Ils étaient vraiment gentils et la connaissance se fit comme ça. Nous fûmes tout de suite bons amis. Ce fut aussi une jolie traversée. J'eus toujours un temps fait exprès. Comme je n'avais jamais eu que des visages noirs à mon bord, je faisais venir à ma table tous les jours mes deux petits amoureux. Cela m'égayait. Quand nous avions mangé le biscuit et le poisson, la petite femme et son mari restaient à se regarder comme s'ils ne s'étaient jamais vus. Alors, je me mettais à rire de tout mon cœur et je me moquais d'eux. Ils riaient aussi avec moi. Vous auriez ri de nous voir comme trois imbéciles, ne sachant pas ce que nous avions. C'est que c'était vraiment plaisant de les voir s'aimer comme ça. Ils se trouvaient bien partout. Ils trouvaient bon tout ce qu'on leur donnait. Cependant, ils étaient à la ration, comme nous tous. J'y ajoutais seulement un peu d'eau de vie suédoise quand ils dînaient avec moi, mais un petit verre pour tenir mon rang. Ils couchaient dans un hamac où le vaisseau les roulait comme ces deux poires que j'ai là dans mon mouchoir mouillé. Ils étaient alertes et contents. Je faisais comme vous, je ne questionnais pas. Qu'avais-je besoin de savoir leur nom et leurs affaires, moi, passeur d'eau? Je les portais donc de l'autre côté de la mer, comme j'aurais porté deux oiseaux de paradis. J'avais fini après un mois par les regarder comme mes enfants. Tous les jours, quand je les appelais, ils venaient s'asseoir auprès de moi. Le jeune homme écrivait sur ma table, c'est-à-dire sur mon lit, et quand je voulais, il m'aidait à faire mon point. Il le sut bientôt faire aussi bien que moi. J'en étais quelquefois tout interdit. La jeune femme s'asseyait sur un petit baril et se mettait à coudre. Un jour qu'ils étaient posés comme cela, je leur dis « Savez-vous, mes petits amis, que nous faisons un tableau de famille comme nous voilà? Je ne veux pas vous interroger, mais probablement vous n'avez pas plus d'argent qu'il ne vous en faut. Et vous êtes joliment délicats tous deux pour bêcher et piocher comme font les déportés à Cayenne. C'est un vilain pays. De tout mon cœur, je vous le dis, mais... moi qui suis d'une vieille peau de loup desséchée au soleil, j'y vivrai comme un seigneur. Si vous aviez, comme il me semble, sans vouloir vous interroger, tant soit peu d'amitié pour moi, je quitterais assez volontiers mon vieux brick qui n'est qu'un sabot à présent, et je m'établirais avec vous, si cela vous convient. Moi, je n'ai pas plus de famille qu'un chien, cela m'ennuie. Vous me feriez une petite société. Je vous aiderais à bien des choses. Et j'ai amassé une bonne pacotille de contrebande assez honnête, dont nous vivrions, et que je vous laisserai lorsque je viendrai d'un tourné de l'œil, comme on dit poliment. » Ils restèrent tout ébahis à se regarder, ayant l'air de croire que je ne disais pas vrai. Et la petite courut, comme elle faisait toujours, se jeter au cou de l'autre et s'asseoir sur ses genoux, toute rouge et en pleurant. Il la serra bien fort dans ses bras, et je vis aussi des larmes dans ses yeux. Il me tendit la main et devint plus pâle qu'à l'ordinaire. Elle lui parlait bas et ses grands cheveux blonds s'en allèrent sur son épaule. Son chignon s'était défait comme un câble qui se déroule tout à coup, parce qu'elle était vive comme un poisson. Ses cheveux-là, oh, si vous les aviez vus, mais c'était comme de l'or. Comme ils continuaient à se parler bas, le jeune homme lui baisant le front de temps en temps, et elle pleurant, cela m'impatienta. Eh bien, ça vous va-t-il, leur dis-je à la fin. Mais capitaine, vous êtes bien bon, dit le mari, mais c'est que vous ne pouvez pas vivre avec des déportés. Il baissa les yeux. Moi, dis-je, c'est ce que vous avez fait pour être déporté, mais vous me direz ça un jour, ou pas du tout, si vous voulez. Vous m'avez pas l'air d'avoir la conscience bien lourde, et je suis bien sûr que j'en ai fait bien d'autres que vous dans ma vie, allez, pauvres innocents. Par exemple, tant que vous serez sous ma garde, je ne vous lâcherai pas, il ne faut pas vous y attendre. Je vous couperai plutôt le cou comme un nœud pigeon, mais une fois l'épaulette de côté, je ne connais plus ni amiral ni rien du tout. C'est que, reprit-il en secouant tristement sa tête brune, quoique un peu poudrée, et comme cela se faisait encore à l'époque, c'est que je crois qu'il serait dangereux pour vous, capitaine, d'avoir l'air de nous connaître. Nous rions parce que nous sommes jeunes, nous avons l'air heureux parce que nous nous aimons. Mais j'ai le vilain moment quand je pense à l'avenir, et je ne sais pas ce que deviendra ma pauvre Laure. Il serra de nouveau la tête de la jeune femme sur sa poitrine. C'était bien là ce que je devais dire au capitaine, n'est-ce pas, mon enfant, que vous auriez dit la même chose? Je pris ma pipe et je me levai parce que je commençais à me sentir les yeux un peu mouillés et que ça ne me va pas à moi. Alors, allons, dis-je, ça s'éclaircira par la suite. Si le tabac incommode madame, son absence est nécessaire. Elle se leva, le visage tout en feu et tout humide de larmes, comme un enfant qu'on a grondé. D'ailleurs, me dit-elle en regardant ma pendule, vous n'y pensez pas, vous autres. Et la lettre? Je sentis quelque chose qui me fit de l'effet. J'eus comme une douleur aux cheveux quand elle me dit cela. Par Dieu, je n'y pensais plus, moi, dis-je. Oh, par exemple, voilà une belle affaire. Si nous avions passé le premier degré de latitude nord, il ne me restait plus qu'à me jeter à l'eau. Faut-il que j'aie du bonheur pour que cet enfant-là m'ait rappelé la grande coquine de l'être? Je regardai vite ma carte marine, et quand je vis que nous en avions encore pour une semaine au moins, j'eus la tête soulagée, mais pas le cœur, sans savoir pourquoi. C'est que le directoire ne badine pas pour l'article obéissance, dis-je. Allons, je suis au courant cette fois-ci encore. Le temps a filé si vite que j'ai tout à fait oublié cela. Eh bien, monsieur, nous restâmes tous trois, le nez en l'air, à regarder cette lettre, comme si elle allait nous parler. Ce qui me frappa beaucoup, c'est que le soleil, qui glissait par la claire-voie, éclairait le verre de la pendule et faisait paraître le grand cachet rouge et les autres petits comme les traits d'un visage au milieu de feu. Ne dirait-on pas que les yeux lui sortent de la tête, leur dis-je pour les abuser. Oh, mon ami, dit la jeune femme, cela ressemble à des taches de sang. « Bah, bah, dit son mari, en la prenant sous le bras, vous vous trompez, Laure. Cela ressemble au billet de fer par d'un mariage. Venez vous reposer, venez. Pourquoi cette lettre vous occupe-t-elle ?» Ils se sauvèrent, comme si un revenant les avait suivis, et montèrent sur le pont. Je restai seul avec cette grande lettre, et je me souviens qu'en fumant ma pipe, je la regardais toujours comme si ses yeux rouges avaient attaché les miens en les humant comme font les yeux de serpent. Sa grande figure pâle, son troisième cachet, plus grand que les yeux, tout ouvert, tout béant comme une gueule de loup, cela me mit de mauvaise humeur. Je pris mon habit et je l'accrochai à la pendule pour ne plus voir ni l'heure ni la chienne de l'être. J'allais achever ma pipe sur le pont, j'y restais jusqu'à la nuit. Nous étions alors à la hauteur des îles du Cap-Vert. Le marin filait, vent poupe, ses dîneux, sans se gêner. La nuit était la plus belle que j'ai vue de ma vie près du tropique. La lune se levait à l'horizon, large comme un soleil. La mer la coupait en deux et devenait toute blanche comme une nappe de neige couverte de petits diamants. Je regardais cela en fumant, assis sur mon banc. L'officier de quart et les matelots ne disaient rien et regardaient comme moi l'ombre du brick sur l'eau. J'étais content de ne rien entendre. J'aime le silence et l'ordre, moi. J'avais défendu tous les bruits et tous les feux. J'entrevis cependant une petite ligne rouge presque sous mes pieds. Je me serais bien mis en colère tout de suite, mais comme c'était chez mes petits déportés, je voulus m'assurer de ce qu'on faisait avant de me fâcher. Je n'eus que la peine de me baisser. Je pus voir par le grand panneau dans la petite chambre et je regardais. La jeune femme était à genoux et faisait ses prières. Il y avait une petite lampe qui l'éclairait. Elle était en chemise. Je voyais d'en haut ses épaules nues, ses petits pieds nus et ses grands cheveux blonds tout épars. Je pensais à me retirer, mais je me dis, « Bon, un vieux soldat, qu'est-ce que ça fait ?» Et je restais à voir. Son mari était assis sur une petite malle, la tête sur ses mains, et la regardait prier. Elle leva la tête en haut comme au ciel, et je vis ses grands yeux bleus mouillés comme ceux d'une madeleine. Pendant qu'elle priait, il prenait le bout de ses longs cheveux et les baisait sans faire de bruit. Quand elle eut fini, elle fit un signe de croix en souriant, avec l'air d'aller au paradis. Je vis qu'il faisait comme elle un signe de croix, mais comme s'il en avait honte. Au fait, pour un homme, c'est singulier. Elle se leva debout, l'embrassa, et s'étendit la première dans son amas où il la jeta sans rien dire, comme on couche un enfant dans une balançoire. Il faisait une chaleur étouffante. Elle se sentait bercée avec plaisir par le mouvement du navire et paraissait déjà commencer à s'endormir. Ses petits pieds blancs étaient croisés et élevés au niveau de sa tête et tout son corps enveloppé de sa longue chemise blanche. C'était un amour, quoi. Mon ami, dit-elle en dormant à moitié, n'avez-vous pas sommeil? Il est bien tard, sais-tu? Il restait toujours le front sur ses mains, sans répondre. Cela l'inquiéta un peu, la bonne petite, et elle passa sa jolie tête hors du hamac comme un oiseau hors de son nid. Elle regarda la bouche entrouverte, n'osant plus parler. Enfin, il lui dit, « Eh, ma chère Laure, à mesure que nous avançons vers l'Amérique, je ne puis m'empêcher de devenir plus triste. Je ne sais pourquoi, il me paraît que le temps le plus heureux de notre vie aura été celui de la traversée. » « Cela me semble aussi, dit-elle, je voudrais n'arriver jamais. » Il la regarda en joignant les mains avec un transport que vous ne pouvez vous figurer. Cependant, mon ange, vous pleurez toujours en priant Dieu. Cela m'afflige beaucoup parce que je sais bien ce à qui vous pensez, et je crois que vous avez du regret de ce que vous avez fait. Moi, du regret, dit-elle avec un air bien peiné. Moi, du regret de t'avoir suivi, mon ami. Crois-tu que pour t'avoir appartenu si peu, je t'ai moins aimé? N'est-on pas une femme, ne sait-on pas ses devoirs, à 17 ans? Ma mère et mes sœurs n'ont-elles pas dit que c'était mon devoir de vous suivre à la Guyane? N'ont-elles pas dit que je ne faisais là rien de surprenant? Je m'étonne seulement que vous en ayez été touché, mon ami. Tout cela est naturel. Et à présent, je ne sais comment vous pouvez croire que je regrette rien quand je suis avec vous pour vous aider à vivre ou pour mourir avec vous si vous mourrez. Elle disait tout ça d'une voix si douce qu'on aurait cru que c'était une musique. J'en étais tout ému et je dis « Bonne petite femme, va !» Le jeune homme se mit à soupirer en frappant du pied et en baisant une jolie main et un bras nu qu'elle lui tendait. « Oh, Laurette, ma Laurette, disait-il, quand je pense que si nous avions retardé de 4 jours notre mariage, on m'arrêtait seul et je partais tout seul, je ne puis me pardonner. » Alors la belle petite pencha hors du hamac ses deux beaux bras blancs, nus jusqu'aux épaules, et lui caressa le front, les cheveux, les yeux, en lui prenant la tête comme pour l'emporter et la cacher dans sa poitrine. Elle sourit comme un enfant, et lui dit une quantité de petites choses de femme comme moi je n'avais jamais rien entendu dire de pareil. Elle lui fermait la bouche avec ses doigts pour parler toute seule. Elle le disait en jouant et en prenant ses longs cheveux comme un mouchoir pour lui essuyer les yeux. « Est-ce que ce n'est pas bien mieux d'avoir avec toi une femme qui t'aime ?» dit mon ami. « Je suis bien contente, moi, d'aller à Cayenne. Je verrai des sauvages, des cocotiers, comme ceux de Paul et Virginie, n'est-ce pas ? Nous planterons chacun le nôtre. Nous verrons qui sera le meilleur jardinier. » Nous nous ferons une petite case pour nous deux. Je travaillerai toute la journée et toute la nuit, si tu veux. Oh, je suis forte, tiens. Regarde mes bras. Tiens, je pourrais presque te soulever. Ne te moque pas de moi. Je sais très bien broder, d'ailleurs. N'y a-t-il pas une ville quelque part par là où il faille des brodeuses? Je donnerai des leçons de dessin et de musique. Si l'on veut aussi, et si l'on sait y écrire, tu écriras, toi. Je me souviens que le pauvre garçon fut si désespéré qu'il jeta un grand cri lorsqu'elle lui dit cela. « Écrire » criait-il, « écrire !» Et il se prit la main droite avec la gauche, en la serrant au poignet. « Ah, écrire ! Pourquoi ai-je jamais su écrire? Écrire, mais c'est le métier d'un fou. J'ai cru à leur liberté de la presse. Où avais-je l'esprit? Et pourquoi faire? Pour imprimer 5 ou 6 pauvres idées, assez médiocres, lues seulement par ceux qui les aiment, jetées au feu par ceux qui les haïssent et ne servant à rien qu'à nous faire persécuter. Moi encore passe, mais toi, bel ange, devenue femme depuis 4 jours à peine, qu'avais-tu fait? Explique-moi, je te prie, comment je t'ai permis d'être bonne à ce point de me suivre ici. Sais-tu seulement où tu es, pauvre petite, et où tu vas, le sais-tu? Bientôt, mon enfant, vous serez à 1600 lieues de votre mère et de vos sœurs, et pour moi, tout cela pour moi. » Elle cacha sa tête un moment dans le hamac, Et moi, d'en haut, je vis qu'elle pleurait. Mais lui, d'en bas, ne voyait pas son visage. Et quand elle le sortit de la toile, c'était en souriant pour lui donner de la gaieté. Au fait, nous ne sommes pas riches à présent, dit-elle en riant aux éclats. Tiens, regarde ma bourse, je n'ai plus qu'un louis tout seul. Et toi? Il se mit à rire aussi comme un enfant. Ma foi, moi j'avais encore un écu, mais je l'ai donné au petit garçon qui apportait un mal. Oh, bah, qu'est-ce que ça fait? Dit-elle en faisant claquer ses petits doigts blancs comme des castagnettes. On n'est jamais plus gai que lorsqu'on n'a rien. Et n'ai-je pas en réserve les deux bagues de diamants que ma mère m'a données? Cela est bon partout et pour tout, n'est-ce pas? Quand tu voudras, nous les vendrons. D'ailleurs, je crois que le bonhomme de capitaine ne dit pas toutes ses bonnes intentions pour nous, et qu'il sait bien ce qu'il y a dans la lettre. C'est sûrement une recommandation pour nous, au gouverneur de Cayenne. Peut-être, dit-il, qui sait? N'est-ce pas? Reprit sa petite femme. Tu es si bon que je suis sûr que le gouvernement t'a exilé pour un peu de temps, mais ne t'en veux pas. Elle avait dit ça si bien, m'appelant le bonhomme de capitaine, que j'en fus tout remué et tout attendri, et je me réjouis même dans le cœur de ce qu'elle avait peut-être deviné juste sur la lettre cachetée. Ils commençaient encore à s'embrasser, frappaient du pied vivement sur le pont pour les faire finir. Je leur criais « Hé, dites donc, mes petits amis, on a l'ordre d'éteindre tous les feux du bâtiment. Soufflez-moi votre lampe, s'il vous plaît. » Ils soufflèrent la lampe, et je les entendis rire en jasant tout bas dans l'ombre comme des écoliers. Je me remis à me promener seul sur mon tillac en fumant ma pipe. Toutes les étoiles du tropique étaient à leur poste, larges comme la petite lune. Je les regardais en respirant un air qui sentait frais et bon. Je me disais que certainement ces bons petits avaient deviné la vérité et j'en étais tout ragaillardi. Il y avait bien à parier qu'un des cinq directeurs s'était ravisé et me les recommandait. Je ne m'expliquais pas bien pourquoi, parce qu'il y a des affaires d'État que je n'avais comprises, moi. Mais enfin, je croyais cela, et sans savoir pourquoi, j'étais content. Je descendis dans ma chambre et j'allais regarder la lettre sous mon vieil uniforme. Elle avait une autre figure. Il me sembla qu'elle riait, et ses cachets paraissaient couleur de rose. Je ne doutais plus de sa bonté, et je lui fis un petit signe d'amitié. Malgré cela, je remis mon uniforme dessus. Elle m'ennuyait. Nous ne pensâmes plus du tout à la regarder pendant quelques jours, et nous étions gais. Mais quand nous approchâmes du premier degré de latitude, nous commençâmes à ne plus parler. Un beau matin, je m'éveillai, assez étonné de ne sentir aucun mouvement dans le bâtiment. À vrai dire, je ne dors jamais que d'un œil, comme on dit, et le roulis me manquait. J'ouvris les deux yeux. Nous étions tombés dans un calme plat, et c'était sous le premier de latitude nord au 27 degrés de longitude. Je mis le nez sur le pont. La mer était lisse comme une jatte d'huile. Toutes les voiles ouvertes tombaient, collées au mât comme des ballons vides. Je dis tout de suite, « Oh, j'aurai le temps de te lire, en regardant au travers du côté de la lettre. » J'attendis jusqu'au soir, au coucher du soleil. Cependant, il fallait bien en venir là. J'ouvris la pendule et j'en tirai vivement l'ordre cacheté. Eh bien, mon cher, je le tenais à la main depuis un quart d'heure que je pouvais pas encore le lire. Enfin, je me dis, c'est trop fort. Et je brisais les trois cachets d'un coup de pouce. Et le grand cachet rouge, je le broyais en poussière. Après avoir lu, je me frottais les yeux, croyant m'être trompé. Je relus la lettre tout entière. Je la relus encore. Je recommençais en apprenant par la dernière ligne et remontant à la première. Je n'y croyais pas. Mes jambes flageolaient un peu sous moi, alors je m'assis. J'avais un certain tremblement sur la peau du visage. Je me frottais les joues un peu avec du rhum, je m'en mis dans le creux des mains. Je me faisais pitié à moi-même d'être aussi bête que ça, mais ce fut l'affaire d'un moment. Je montais prendre l'air. Lorette était ce jour-là si jolie que je ne voulus pas m'approcher d'elle. Elle avait une petite robe blanche toute simple, les bras nus jusqu'au col, et ses grands cheveux tombant comme elle les portait toujours. Elle s'amusait à tremper dans la mer son autre robe au bout d'une corde, et riait en cherchant à arrêter les goémons, plantes marines semblables à des grappes de raisin et qui flottent sur les eaux des tropiques. « Viens donc voir les raisins, viens donc vite !» criait-elle. Et son ami s'appuyait sur elle et se penchait, et ne regardait pas l'eau parce qu'il la regardait d'un air tout attendri. Je fis signe à ce jeune homme de venir me parler sur le gaillard d'arrière. Elle se retourna, je ne sais quelle figure j'avais, mais elle laissa tomber sa corde. Elle le prit violemment par le bras et lui dit « Oh, on n'y va pas, il est tout pâle !» Cela je pouvais bien, il y avait de quoi pâlir. Il vint cependant près de moi sur le gaillard. Elle nous regardait appuyée contre le grand mât. Nous nous promenâmes longtemps le long en large sans rien dire. Je fumais un cigare que je trouvais amer et je le crachais dans l'eau. Il me suivait de l'œil. Je lui pris le bras. « Oh, j'ai tout fait, ma parole. Ma parole d'honneur, j'ai tout fait. »« Ah, ça !» lui dis-je enfin. « Contez-moi donc, mon petit ami, contez-moi un peu votre histoire. »« Mais que diable avez-vous donc fait à ces chiens d'avocats qui sont là comme cinq morceaux de roi ?» Il paraît qu'ils vous en veulent fièrement, c'est drôle. Il haussa les épaules en penchant la tête, avec un air si doux, le pauvre garçon, et me dit « Oh, mon Dieu, capitaine, pas grand-chose, allez. Trois couplets de vaudeville sur le directoire, voilà tout. Pas possible, dis-je. Oh, mon Dieu, si. » Les couplets n'étaient même pas trop bons. J'ai été arrêté le 15 Fructidor et conduit à la force, jugé le 16 et condamné à mort d'abord et puis à la déportation par bienveillance. C'est drôle, dis-je. Les directeurs sont des camarades bien susceptibles, car cette lettre que vous savez me donne l'ordre de vous fusiller. Il ne répondit pas et sourit en faisant une assez bonne contenance pour un jeune homme de 19 ans. Il regarda seulement sa femme et s'essuya le front d'où tombaient les gouttes de sueur. J'en avais autant au moins sur la figure, moi, et d'autres gouttes aux yeux. je repris. Il paraît que ces citoyens-là n'ont pas voulu faire votre affaire sur terre. Ils ont pensé qu'ici, ça ne paraîtrait pas tant. Mais pour moi, c'est fort triste, car vous avez beau être un bon enfant, je ne peux pas m'en dispenser. L'arrêt de mort est là, en règle, et l'ordre d'exécution signé, paraphé, scellé. Il n'y manque rien. Il me salua très poliment en rougissant. « Oh, je ne demande rien, capitaine, dit-il, avec une voix aussi douce que de coutume. Je serais désolé de vous faire manquer à vos devoirs. Je voudrais seulement parler un peu à Laure et vous prier de la protéger dans le cas où elle me survivrait. » « C'est que je ne le crois pas. »« Oh, pour cela, c'est juste, lui dis-je, mon garçon. Si cela ne vous déplaît pas, je la conduirai à sa famille, à mon retour en France, et je ne la quitterai que quand elle ne voudra plus me voir. Mais, à mon sens, vous pouvez vous flatter qu'elle ne reviendra pas de ce coup-là, pauvre petite femme. » Il me prit les deux mains, les serra et me dit « Mon brave capitaine, vous souffrez plus que moi de ce qui vous reste à faire. Je le sens bien, mais qui pouvons-nous ? Je compte sur vous pour lui conserver le peu qui m'appartient, pour la protéger, pour veiller à ce qu'elle reçoive ce que sa vieille mère pourrait lui laisser, n'est-ce pas ? Et aussi, pour qu'on ménage toujours sa santé. Tenez, ajouta-t-il plus bas, j'ai à vous dire qu'elle est très délicate. Elle a souvent la poitrine affectée jusqu'à s'évanouir plusieurs fois par jour. Il faut qu'elle se couvre bien toujours. Enfin, vous remplacerez son père, sa mère et moi, autant que possible, n'est-il pas vrai ? Si elle pouvait conserver les bagues que sa mère lui a données, cela me ferait bien plaisir. Mais si on a besoin de les vendre pour elle, il le faudra bien. Ma pauvre Laurette, voyez comme elle est belle. Comme ça commençait à devenir par trop tendre, cela m'ennuya et je me mis à froncer le sourcil. Je lui avais parlé d'un air gai pour ne pas m'affaiblir, mais je n'y tenais plus. Enfin, suffit, lui dis-je. Entre braves gens, on s'entend de reste. Allez lui parler et dépêchons-nous. Je lui serrai la main en ami, et comme il ne quittait pas la mienne et me regardait avec un air singulier, « Oh, ça, si j'ai un conseil à vous donner, ajoutai-je, c'est de ne pas lui parler de ça. Nous arrangerons la chose sans qu'elle s'y attende, ni vous non plus, soyez tranquille. Cela me regarde. »« Ah, c'est différent, dit-il, je ne savais pas. Oui, cela vaut mieux, en effet. D'ailleurs, les adieux, cela affaiblit. » « Oui, oui, lui dis-je, ne soyez pas d'enfant, ça vaut mieux. Ne l'embrassez pas, mon ami, ne l'embrassez pas, si vous pouvez, ou vous êtes perdu. » Je lui donnai encore une bonne poignée de main et je le laissai aller. Oh, c'était dur pour moi, tout cela. Il me parut qu'il gardait ma foi bien le secret, car ils se promenèrent bras dessus pendant un quart d'heure, et ils revinrent au bord de l'eau, reprendre la corde et la robe qu'un de mes mousses avait repêchée. La nuit vint tout à coup. C'était le moment que j'avais résolu de prendre. Mais ce moment a duré pour moi jusqu'au jour où nous sommes. et je le traînerai toute ma vie comme un boulet. Ici, le vieux commandant fut forcé de s'arrêter. Je me gardais de parler de peur de détourner ses idées. Il reprit en se frappant la poitrine. Ce moment-là, je vous le dis, je ne peux pas encore le comprendre. Je sentis la colère me prendre aux cheveux, et en même temps, je ne sais quoi me faisait obéir et me poussait en avant. J'appelai les officiers et je dis à l'un d'eux « Allons, un canot à la mer, puisqu'à présent nous sommes des bourreaux. Vous y mettrez cette femme et vous l'emmènerez au large jusqu'à ce que vous entendiez des coups de fusil. Alors vous reviendrez. Obéir à un morceau de papier, car ce n'était que cela, enfin. Fallait qu'il y eût quelque chose dans l'air qui me poussât. J'entrevis de loin ce jeune homme. Oh, c'était affreux à voir. S'agenouiller devant sa lorette et lui baiser les genoux et les pieds. N'est-ce pas, vous trouvez que j'étais bien malheureux? Je criais comme un fou. Mais séparez-les, nous sommes tous des scélérats. Séparez-les. La pauvre République est encore mort. Directoire, directeur, c'en est la vermine. Je quitte la mer. Je ne crains pas tous vos avocats. Qu'on en dit ce que je dis, qu'est-ce que ça me fait? Oh, je me souciais bien d'eux, en effet. J'aurais voulu les tenir, je les aurais fait fusiller, tous les cinq, les coquins. Oh, je l'aurais fait, je me souciais de la vie comme de l'eau qui tombe là, tenez. M'en souciais bien, une vie comme la mienne. Ah oui, pauvre vie, va. Et la voix du commandant s'éteignit peu à peu et devint aussi incertaine que ses paroles. Et il marcha en se mordant les lèvres et en fronçant le sourcil dans une distraction terrible et farouche. Il avait de petits mouvements convulsifs et donnait à son mulet des coups de fureau de son épée, comme s'il eût voulu le tuer. Ce qui m'étonna, ce fut de voir la peau jaune de sa figure devenir d'un rouge foncé. Il défit et entr'ouvrit violemment son habit sur la poitrine, la découvrant au vent et à la pluie. Nous continuâmes ainsi à marcher dans un grand silence. Je vis bien qu'il ne parlerait plus de lui-même et qu'il fallait me résoudre à questionner. « Je comprends bien, lui dis-je, comme s'il eût fini son histoire, qu'après une aventure aussi cruelle, on prenne son métier en horreur. « Oh, le métier, êtes-vous fou ? » me dit-il brusquement. « Ce n'est pas le métier. Jamais le capitaine d'un bâtiment ne sera obligé d'être un bourreau, si l'on conviendront des gouvernements d'assassins et de voleurs, qui profiteront de l'habitude qu'a un pauvre homme d'obéir aveuglément, d'obéir toujours, d'obéir comme une malheureuse mécanique malgré son cœur. » En même temps, il tira de sa poche un mouchoir rouge, dans lequel il se mit à pleurer comme un enfant. Je m'arrêtai un moment, comme pour arranger mon étrier, et restant derrière la charrette, je marchai quelque temps à la suite, sentant qu'il serait humilié si je voyais trop clairement ses larmes abondantes. J'avais deviné juste, car au bout d'un quart d'heure environ, il vint aussi derrière son pauvre équipage et me demanda si je n'avais pas de rasoir dans mon porte-manteau. À quoi je lui répondis simplement que n'ayant pas encore de barbe, cela m'était fort inutile. Mais il n'y tenait pas, c'était pour parler d'autre chose. Je m'aperçus cependant avec plaisir qu'il revenait à son histoire, car il me dit tout à coup, « Vous n'avez jamais vu de vaisseau de votre vie, n'est-ce pas? Je n'en ai vu, dis-je, qu'au panorama de Paris, et je ne me fie pas beaucoup à la science maritime que j'en ai tirée. Vous ne savez pas, par conséquent, ce que c'est que le Bossoir. Non, je ne m'en doute pas, dis-je. Ben, c'est une espèce de terrasse de poutre qui sort de l'avant du navire et d'où l'on jette l'ancre en mer. Quand on fusille un homme, on le fait placer là, ordinairement, ajouta-t-il plus bas. Ah, oui, je comprends, parce qu'il tombe de là dans la mer. Il ne répondit pas, et se mit à décrire toutes les sortes de canaux que peut porter un brick et leur position dans le bâtiment. Et puis, sans ordre dans ses idées, il continua son récit avec cet air affecté d'insouciance que de longs services donnent infailliblement parce qu'il faut montrer à ses inférieurs le mépris du danger, le mépris des hommes, le mépris de la vie, le mépris de la mort et le mépris de soi-même. Et tout cela cache sous une dure enveloppe presque toujours une sensibilité profonde. La dureté de l'homme de guerre est comme un masque de fer sur un noble visage, comme un cachot de pierre qui renferme un prisonnier royal. « Ces embarcations tiennent 6 hommes, reprit-il. Ils s'y jetèrent et emportèrent l'or avec eux sans qu'elle eût le temps de crier et de parler. « Oh, voici une chose dont aucun honnête homme ne peut se consoler. » quand il est en cause. On a beau dire, on n'oublie pas une chose pareille. Ah, quel temps il fait! Quel diable m'a poussé à raconter ça? Quand je raconte cela, je ne peux plus m'arrêter, c'est fini. C'est une histoire qui me grise comme le vin de Jurançon. Oh, quel temps il fait! Mon manteau est traversé. Quand je vous parlais, je crois encore de cette petite Laurette, la pauvre femme, qui a des gens maladroits dans le monde. L'officier fut assez sot pour conduire le canot en avant du brick. Après cela, il est vrai de dire qu'on ne peut pas tout prévoir. Moi, je comptais sur la nuit pour cacher l'affaire. Je ne pensais pas à la lumière des 12 fusils faisant feu à la fois. Et ma foi, du canot, elle a vu son mari tomber à la mer, fusillé. S'il y a un dieu là-haut, il sait comment arriva ce que je vais vous dire. Moi, je ne le sais pas, mais on l'a vu et entendu comme je vous vois et vous entends. Au moment du feu, elle porta la main à sa tête, comme si une balle l'avait frappée au front, et s'assit dans le canot sans s'évanouir, sans crier, sans parler, et revint au brick quand on voulut et comme on voulut. J'allais à elle, lui parlais longtemps et le mieux que je pus. Elle avait l'air de m'écouter et me regarder en face en se frottant le front. Elle ne comprenait pas. Elle avait le front rouge et le visage tout pâle. Elle tremblait de tous ses membres comme ayant peur de tout le monde. Ça lui est resté. Elle est encore de même, la pauvre petite. Idiote, ou comme imbécile, ou folle, enfin, comme vous voudrez. Jamais on n'en a tiré une parole, si ce n'est quand elle dit qu'on lui ôte ce qu'elle a dans la tête. De ce moment-là, je devins aussi triste qu'elle, et je sentis quelque chose en moi qui me disait « Reste devant elle jusqu'à la fin de tes jours et garde-la. » Je l'ai fait. Quand je revins en France, je demandai à passer avec mon grade dans les troupes de terre, ayant pris la mer en haine, parce que j'y avais jeté du sang innocent. Je cherchais la famille de l'eau. Sa mère était morte. Ses sœurs, à qui je la conduisais folle, n'en voulurent pas et m'offrirent de la mettre à Charenton. Je leur tournais le dos, je la gardais avec moi. Oh mon Dieu! Si vous voulez la voir, mon camarade, il ne tient qu'à vous. Serait-elle là-dedans, lui dis-je. Certainement, attendez. Oh, oh, la mule! Comment je continuais ma route? Et il arrêta son pauvre mulet qui me parut charmé que j'eusse fait cette question. En même temps, il souleva la toile cirée de sa petite charrette comme pour arranger la paille qui la remplissait presque, et je vis quelque chose de bien douloureux. Je vis deux yeux bleus, démesurés de grandeur, admirables de forme, sortant d'une tête pâle, amaigrie et longue, inondée de cheveux blancs tout plats. Je ne vis en vérité que ces doux yeux qui étaient tout dans cette pauvre femme, car le reste était mort. Son front était rouge, ses joues creuses et blanches avaient des pommettes bleuâtres. Elle était accroupie au milieu de la paille, si bien qu'on en voyait à peine sortir ses deux genoux sur lesquels elle jouait au domino toute seule. Elle nous regarda un moment, trembla longtemps, me sourit un peu et se remit à jouer. Il me parut qu'elle s'appliquait à comprendre comment sa main droite battrait sa main gauche. « Voyez-vous, il y a un mois qu'elle joue cette partie-là, » me dit le chef de bataillon. « Demain, ce sera peut-être un autre jeu qui durera longtemps. C'est drôle, hein ?» En même temps, il se mit à replacer la toile cirée de son shako que la pluie avait un peu dérangé. « Pauvre Lorette, dis-je, tu as perdu pour toujours, va. » J'approchai mon cheval de la charrette et je lui tendis la main. Elle me donna la sienne machinalement et en souriant avec beaucoup de douceur. Je remarquai avec étonnement qu'elle avait à ses longs doigts deux bagues de diamants. Je pensais que c'était encore les bagues de sa mère, et je me demandais comment la misère les avait laissées là. Pour un monde entier, je n'en aurais pas fait l'observation au vieux commandant. Mais comme il me suivait les yeux, et voyait les miens arrêtés sur les doigts de l'or, il me dit avec un certain air d'orgueil, « Ce sont d'assez gros diamants, n'est-ce pas? Ils pourraient avoir leur prix dans l'occasion, mais je n'ai pas voulu qu'elle s'en séparât, la pauvre enfant. Quand on y touche, elle pleure, elle ne les quitte pas. Du reste, elle ne se plaint jamais, et elle peut coudre de temps en temps. J'ai tenu parole à son pauvre petit mari, et en vérité, je ne m'en repens pas. Je ne l'ai jamais quittée, et j'ai dit partout que c'était ma fille qui était folle. On a respecté ça. Alors, mais, tout s'arrange mieux qu'on ne le croit à Paris, allez. Elle a fait toutes les guerres de l'empereur avec moi, et je l'ai toujours tiré d'affaire. Je la tenais toujours chaudement, avec de la paille et une petite voiture, ce n'est jamais impossible. Elle avait une tenue assez soignée, et moi, étant chef de bataillon, qu'une bonne paye. Ma pension de la Légion d'honneur et le moi Napoléon, dont la somme était double dans le temps, j'étais tout à fait au courant de mon affaire et ne me gênais pas. Au contraire, ces enfantillages faisaient rire quelquefois les officiers du 7e léger. Alors il s'approcha d'elle et lui frappa sur l'épaule comme il eût fait à son petit mulet. « Eh bien, fille, dis donc, pars donc un peu au lieutenant qui est là. Voyons, un petit signe de tête. » Elle se remit à ses dominos. « Oh, dit-il, C'est qu'elle est un peu farouche aujourd'hui parce qu'il pleut. Cependant, elle s'enrhume jamais. Les fous, ça n'est jamais malade. Oh, c'est commode de ce côté-là. À la Bérésina et dans toute la retraite de Moscou, elle allait nu-tête. Allons, ma fille, joue toujours, va, t'inquiète pas de nous. Fais ta volonté, va, Lorette. Elle lui prit la main qu'il appuyait sur son épaule, une grosse main noire et ridée. Elle la porta timidement à ses lèvres et la baisa comme une pauvre esclave. Je me sentis le cœur serré par ce baiser et je tournai bride violemment. Voulons-nous continuer notre marche, commandant, lui dis-je. La nuit viendra avant que nous soyons à Béthune. Le commandant racla soigneusement avec le bout de son sabre la boue jaune qui chargeait ses bottes. Ensuite il monta sur le marchepied de la charrette, ramena sur la tête de Laure le capuchon de drap d'un petit manteau qu'elle avait. Il ôta sa cravate de soie noire et la mit autour du cou de sa fille adoptive. Après quoi, il donna le coup de pied au mulet, fit son mouvement d'épaule et dit « En route, mauvaise troupe !» et nous repartîmes. La pluie tombait toujours tristement. Le ciel gris et la terre grise s'étendaient sans fin. Une sorte de lumière terne, un pâle soleil, tout mouillé, s'abaissait derrière de grands moulins qui ne tournaient pas. Nous retombâmes dans un grand silence. Je regardais mon vieux commandant. Il marchait à grands pas, avec une vigueur toujours soutenue, tandis que son mulet n'en pouvait plus et que mon cheval même commençait à baisser la tête. Ce brave homme ôtait de temps à autre son shako pour essuyer son front chauve et quelques cheveux gris de sa tête, ou ses gros sourcils, ou ses moustaches blanches, d'où tombait la pluie. Il ne s'inquiétait pas de l'effet qu'avait pu faire sur moi son récit. Il ne s'était fait ni meilleur, ni plus mauvais qu'il n'était. Il n'avait pas daigné se dessiner. Il ne pensait pas à lui-même, et au bout d'un quart d'heure, il entama, sur le même ton, une histoire bien plus longue, sur une campagne du maréchal Masséna, où il avait formé son bataillon en carré contre je ne sais quelle cavalerie. Je ne l'écoutais pas, quoiqu'il s'échauffât pour me démontrer la supériorité du fantassin sur le cavalier. La nuit vint, nous n'allions pas vite. La boue devenait plus épaisse et plus profonde. Rien sur la route et rien au bout. Nous nous arrêtâmes au pied d'un arbre mort, le seul arbre du chemin. Il donna d'abord ses soins à son mulet, comme moi à mon cheval. Ensuite, il regarda dans la charrette, comme une mère dans le berceau de son enfant. Je l'entendais qui disait « Alors, ma fille, mets cette redingote sur tes pieds et tâche de dormir. » Allons, eh bien, elle n'a pas une goutte de pluie. Ah, diable, elle a cassé ma montre que je lui avais laissée au cou. Oh, ma pauvre montre d'argent. Allons, c'est égal, mon enfant, tâche de dormir. Voilà le beau temps qui va venir bientôt. C'est drôle, elle a toujours la fièvre. Les folles sont comme ça. « Tiens, voilà du chocolat pour toi, mon enfant. » Il appuya la charrette à l'arbre et nous nous assîmes sous les roues à l'abri de l'éternelle ondée, partageant un petit pain à lui et un à moi. Mauvais souper. « Je suis fâché que nous n'ayons que ça, dit-il, mais ça vaut mieux que du cheval cuit sous la cendre avec de la poudre dessus en manière de sel. » comme on en mangeait en Russie. La pauvre petite femme, faut bien que je lui donne ce que j'ai de mieux. Vous voyez que je la mets toujours à part. Elle peut pas souffrir le voisinage d'un homme depuis l'affaire de la lettre. Je suis vieux et elle a l'air de croire que je suis son père. Malgré cela, elle m'étranglerait si je voulais l'embrasser, seulement sur le front. L'éducation leur laisse toujours quelque chose à ce qu'il paraît, car je l'ai jamais vu oublier de se cacher comme une religieuse. C'est drôle, hein ? Comme il parlait d'elle de cette manière, nous l'entendîmes soupirer et dire « Ôtez ce plomb, ôtez-moi ce plomb !» Je me levai et il me fit rasseoir. « Restez, restez, me dit-il, ce n'est rien. Elle dit ça toute sa vie parce qu'elle croit toujours sentir une balle dans sa tête. Ça n'empêche pas de faire tout ce qu'on lui dit et cela avec beaucoup de douceur. » Je me tus en écoutant avec tristesse. Je me mis à calculer que de 1797 à 1815, où nous étions, 18 années ainsi s'étaient passées pour cet homme. Je demeurai longtemps en silence à côté de lui, cherchant à me rendre compte de ce caractère et de cette destinée. Ensuite, à propos de rien, je lui donnai une poignée de main pleine d'enthousiasme. Il en fut étonné. « Vous êtes un digne homme, » lui dis-je. Il me répondit. « Pourquoi donc ? Est-ce à cause de cette pauvre femme ? Ben, vous sentez bien, mon enfant, que c'était un devoir. Il y a longtemps que j'ai fait abnégation. » Et il me parla encore de Masséna. Le lendemain, au jour, nous arrivâmes à Béthune, petite ville laide et fortifiée, où l'on dirait que les remparts, en resserrant leur cercle, ont pressé les maisons l'une sur l'autre. Tout y était en confusion, c'était le moment d'une alerte. Les habitants commençaient à retirer les drapeaux blancs des fenêtres et à coudre les trois couleurs dans leurs maisons. Les tambours battaient la générale, les trompettes sonnaient à cheval par ordre de M. le duc de Berry. Les longues charrettes picardes portaient les cent suisses et leurs bagages. Les canons des gardes du corps courant aux remparts, les voitures des princes, les escadrons des compagnies rouges se formant, encombraient la ville. La vue des gendarmes du roi et des mousquetaires me fit oublier mon vieux compagnon de route. Je joignis ma compagnie, et je perdis dans la foule la petite charrette et ses pauvres habitants. À mon grand regret, c'était pour toujours que je le perdais. Ce fut la première fois de ma vie que je l'eus au fond d'un vrai cœur de soldat. Cette rencontre me révéla une nature d'homme qui m'était inconnue et que le pays connaît mal et ne traite pas bien. Je la plaçais dès lors très haut dans mon estime. J'ai souvent cherché depuis autour de moi quelque homme semblable à celui-là et capable de cette abnégation de soi-même entière et insouciante. Or, durant 14 années que j'ai vécu dans l'armée, ce n'est qu'en elle et surtout dans les rangs dédaignés et pauvres de l'infanterie que j'ai retrouvé ces hommes de caractère antique, poussant le sentiment du devoir jusqu'à ses dernières conséquences, n'ayant ni remords de l'obéissance, ni honte de la pauvreté, simple de mœurs et de langage, fiers de la gloire du pays et insouciants de la leur propre, s'enfermant avec plaisir dans leur obscurité et partageant avec les malheureux le pain noir qu'ils paient de leur sang. J'ignorais longtemps ce qu'était devenu ce pauvre chef de bataillon, d'autant plus qu'il ne m'avait pas dit son nom et que je ne lui avais pas demandé. Un jour, cependant, au café, en 1825, je crois, un vieux capitaine d'infanterie de ligne à qui je le décrivis, en attendant la parade, me dit « Eh, pardieu, mon cher, je l'ai connu, le pauvre diable !» Oh, c'était un brave homme. Il a été descendu par un boulet à Waterloo. Il avait en effet laissé au bagage une espèce de fille folle que nous menâmes à l'hôpital d'Amiens en allant à l'armée de la Loire et qui mourut furieuse au bout de 3 jours. Je le crois bien, lui dis-je, elle n'avait plus son père nourricier. « Ah bah, père, qu'est-ce que vous dites donc » ajouta-t-il d'un air qu'il voulait rendre fin et licencieux. « Je dis qu'on me le rappelle, repris-je en sortant. Et moi aussi, j'ai fait abnégation. » Alfred de Vigny, Servitude et grandeur militaire, La veillée de Vincennes, Chapitre 1. Les scrupules d'honneur d'un soldat. Un soir de l'été de 1819, je me promenais à Vincennes dans l'intérieur de la forteresse où j'étais en garnison avec Timoléon d'Arc, lieutenant de la garde comme moi. Nous avions fait, selon l'habitude, la promenade au polygone, assisté à l'étude du tir à ricochet, écouté et raconté paisiblement les histoires de guerre, discuter sur l'école polytechnique, sur sa formation, son utilité, ses défauts, et sur les hommes au teint jaune qu'avait fait pousser ce terroir géométrique. La couleur pâle de l'école, Timoléon l'avait aussi sur le front. Ceux qui l'ont connu se rappelleront, comme moi, sa figure régulière et un peu amaigrie, ses grands yeux noirs et les sourcils arqués qui les couvraient, et le sérieux si doux et rarement troublé de son visage spartiate. Il était fort préoccupé ce soir-là de notre conversation très longue sur le système des probabilités de la place. Je me souviens qu'il tenait sous le bras ce livre que nous avions en grande estime et dont il était souvent tourmenté. La nuit tombait, ou plutôt s'épanouissait, une belle nuit d'août. Je regardais avec plaisir la chapelle construite par Saint-Louis et cette couronne de tours moussues et à demi ruinées qui servait alors de parure à Vincennes. Le donjon se levait au-dessus d'elle comme un roi au milieu de ses gardes. Les petits croissants de la chapelle brillaient parmi les premières étoiles au bout de leurs longues flèches. L'odeur fraîche et suave du bois nous parvenait par-dessus les remparts et n'y avait pas jusqu'au gazon des batteries qui n'exhala une haleine de soir d'été. Nous nous assîmes sur un grand canon de Louis XIV et nous regardâmes en silence quelques jeunes soldats qui essayaient leur force en soulevant tour à tour une bombe au bout des bras, tandis que les autres rentraient lentement et passaient le pont-levis deux par deux ou quatre par quatre avec toute la paresse du désœuvrement militaire. Les cours étaient remplis de caissons de l'artillerie ouverts et chargés de poudre, préparé pour la revue du lendemain. À notre côté, près de la porte du bois, un vieil adjudant d'artillerie ouvrait et refermait, souvent avec inquiétude, la porte très légère d'une petite cour, poudrière et arsenal, appartenant à l'artillerie à pied et remplie de barils de poudre, d'armes et de munitions de guerre. Il nous salua en passant. C'était un homme d'une taille élevée, mais un peu voûté. Ses cheveux étaient rares et blancs, sa moustache blanche et épaisse, son air ouvert, robuste et frais encore, heureux, doux et sage. Il tenait 3 grands registres à la main et vérifiait de longues colonnes de chiffres. Nous lui demandâmes pourquoi il travaillait si tard, contre sa coutume. Il nous répondit, avec le ton de respect et de calme des vieux soldats, que c'était le lendemain un jour d'inspection générale à 5 heures du matin, qu'il était responsable des poudres et qu'il ne cessait de les examiner et de recommencer 20 fois ses comptes pour être à l'abri du plus léger reproche de négligence, qu'il avait voulu aussi profiter des dernières lueurs du jour, parce que la consigne était sévère et défendait d'entrer la nuit dans la poudrière avec un flambeau ou même une lanterne sourde, et qu'il était désolé de n'avoir pas eu le temps de tout voir et qu'il lui restait encore quelques obus à examiner. Il voudrait bien pouvoir revenir dans la nuit. Et il regardait avec un peu d'impatience le grenadier que l'on posait en faction à la porte et qui devait l'empêcher d'y rentrer. Après nous avoir donné ces détails, il se mit à genoux et regarda sous la porte s'il n'y restait pas une traînée de poudre. Il craignait que les éperons ou les fers des bottes des officiers ne vinssent à y mettre feu le lendemain. « Ce n'est pas cela qui m'occupe le plus, » dit-il en se relevant, « mais ce sont mes registres. » Et il le regardait avec regret. « Vous êtes trop scrupuleux, » dit Timoléon. « Oh, mon lieutenant, quand on est dans la garde, on ne peut pas trop l'être sur son honneur. Un de nos maréchaux des logis s'est brûlé la cervelle lundi dernier pour avoir été mis à la salle de police. Moi, je dois donner l'exemple aux sous-officiers. » Depuis que je sers dans la garde, je n'ai pas eu un reproche de mes chefs, et une punition me rendrait bien malheureux. Il est vrai que ces braves soldats, pris dans l'armée parmi l'élite de l'élite, se croyaient déshonorés par la plus légère faute. « Allez, vous êtes tous les puritains de l'honneur, » lui dis-je en lui frappant sur l'épaule. Il salua et se retira vers la caserne où était son logement. Puis, avec une innocence de mœurs particulière à l'honnête race des soldats, il revint, portant du chêne vie dans le creux de ses mains, à une poule qui élevait ses 12 poussins sous le vieux canon de bronze où nous étions assis. Oh, c'était bien la plus charmante poule que j'ai connue de ma vie. Elle était toute blanche, sans une seule tache. Et ce brave homme, avec ses gros doigts mutilés à Marengo et Austerlitz, lui avait collé sur la tête une petite aigrette rouge et sur la poitrine un petit collier d'argent avec une plaque à son chiffre. La bonne poule en était fière et reconnaissante à la fois. Elle savait que les sentinelles la faisaient toujours respecter et elle n'avait peur de personne, pas même d'un petit cochon de lait et d'une chouette qu'on avait logée auprès d'elle sous le canon voisin. La belle poule faisait le bonheur des canonniers. Elle recevait de nous tous des miettes de pain et de sucre tant que nous étions en uniforme. Mais elle avait horreur de l'habit bourgeois, et ne nous reconnaissant plus sous ce déguisement, elle s'enfuyait avec sa famille sous le canon de Louis XIV. Magnifique canon sur lequel était gravé l'éternel soleil avec son nec pluribus impar et l'ultima ratio regum. Et il logeait une poule là-dessous. Le bon adjudant nous parla d'elle en fort bons termes. Elle fournissait des œufs à lui et à sa fille avec une générosité sans pareille. Et il l'aimait tant qu'il n'avait pas eu le courage de tuer un seul de ses poulets, de peur de l'affliger. Comme il racontait ses bonnes mœurs, les tambours et les trompettes battirent et sonnèrent à la fois l'appel du soir. On allait lever les ponts et les concierges en faisaient résonner les chaînes. Nous n'étions pas de service et nous sortîmes par la porte du bois. Timoléon, qui n'avait cessé de faire des angles sur le sable avec le bout de son épée, s'était levé du canot en regrettant ses triangles, comme moi, je regrettais ma poule blanche et mon adjudant. Nous tournâmes à gauche en suivant les remparts. Et passant ainsi devant le tertre de gazon élevé au duc d'Enghien, sur son corps fusillé et sa tête écrasée par un pavé, nous côtoyâmes les fossés en y regardant le petit chemin blanc qu'il avait pris pour arriver à cette fosse. Il y a deux sortes d'hommes qui peuvent très bien se promener ensemble 5 heures de suite sans se parler. Ce sont les prisonniers et les officiers. Condamnés à se voir toujours, quand ils sont tous réunis, chacun est seul. Nous allions en silence, les bras derrière le dos. Je remarquai que Timoléon tournait et retournait sans cesse une lettre au clair de la lune. C'était une petite lettre de forme longue. J'en connaissais la figure et l'auteur féminin, et j'étais accoutumé à le voir rêver tout un jour sur cette petite écriture fine et élégante. Aussi, nous étions arrivés au village, en face du château. Nous avions monté l'escalier de notre petite maison blanche. Nous allions nous séparer sur le carré de nos appartements voisins, que je n'avais pas dit une parole. Là seulement, il me dit tout à coup: elle veut absolument que je donne ma démission. Qu'en pensez-vous? Oh, je pense, dis-je, qu'elle est belle comme un ange, parce que je l'ai vue. Je pense que vous l'aimez comme un fou, parce que je vous vois depuis 2 ans, tel que ce soir. Je pense que vous avez une assez belle fortune, à en juger par vos chevaux et votre train. Je pense que vous avez fait assez vos preuves pour vous retirer, et qu'en temps de paix, ce n'est pas un grand sacrifice. Mais je pense aussi à une seule chose. Laquelle? Dit-il en souriant assez amèrement, parce qu'il devinait. C'est qu'elle est mariée, dis-je plus gravement. Vous le savez mieux que moi, mon pauvre ami. C'est vrai, dit-il, pas d'avenir. Et le service sert à vous faire oublier cela quelquefois, ajoutai-je. Peut-être, dit-il, mais il n'est pas probable que mon étoile change à l'armée. Remarquez dans ma vie que jamais je n'ai rien fait de bien qui ne restât inconnu ou mal interprété. Mais vous liriez la place toutes les nuits, dis-je, que vous ne trouveriez pas de remède à cela. Et je m'enfermais chez moi pour écrire un poème sur le masque de fer, poème que j'appelais La prison. Chapitre 2 Sur l'amour du danger. L'isolement ne saurait être trop complet pour les hommes que je ne sais quel démon poursuit par des illusions de poésie. Le silence était profond et l'ombre épaisse sur les tours du vieux Vincennes. La garnison dormait depuis 9 heures du soir. Tous les feux s'étaient éteints à 6 heures par ordre des tambours. On entendait que la voix des sentinelles placées sur le rempart et s'envoyant et répétant l'une après l'autre leurs cris longs et mélancoliques. « Sentinelles, prenez garde à vous !» Les corbeaux des tours répondaient plus tristement encore et, ne s'y croyant plus en sûreté, s'envolait plus haut jusqu'au donjon. Rien ne pouvait plus me troubler, et pourtant quelque chose me troublait, qui n'était ni bruit ni lumière. Je voulais et je ne pouvais pas écrire. Je sentais quelque chose dans ma pensée comme une tache dans une émeraude. C'était l'idée que quelqu'un auprès de moi veillait aussi, et veillait sans consolation, profondément tourmenté. Cela me gênait. J'étais sûr qu'il avait besoin de se confier. Et j'avais vu brusquement sa confidence par désir de me livrer à mes idées favorites. Mais j'en étais puni maintenant par le trouble de ses idées mêmes. Elles ne volaient pas librement et largement, et il me semblait que leurs ailes étaient appesanties, mouillées peut-être par une larme secrète d'un ami délaissé. Je me levai de mon fauteuil, j'ouvris la fenêtre et je me mis à respirer l'air embaumé de la nuit. Une odeur de forêt venait à moi par-dessus les murs, un peu mélangée d'une faible odeur de poudre. Cela me rappela ce volcan sur lequel vivaient et dormaient 3 000 hommes dans une sécurité parfaite. J'aperçus sur la grande baraque du fort, séparée du village par un chemin de 40 pas tout au plus, une lueur projetée par la lampe de mon jeune voisin. Son ombre passait et repassait sur la muraille, et je vis à ses épaulettes qu'il n'avait pas même songé à se coucher. Il était minuit. Je sortis brusquement de ma chambre et j'entrai chez lui. Il ne fut nullement étonné de me voir, et dit tout de suite que s'il était encore debout, c'était pour finir une lecture de Xénophon qui l'intéressait fort. Mais comme il n'y avait pas un seul livre ouvert dans sa chambre, et qu'il tenait encore à la main son petit billet de femme, je ne fus pas sa dupe. Mais j'en eus l'air. Nous nous mîmes à la fenêtre, et je lui dis, essayant d'approcher mes idées des siennes. Je travaillais aussi de mon côté, et je cherchais à me rendre compte de cette sorte d'aimant qu'il y a pour nous dans l'acier d'une épée. C'est une attraction irrésistible qui nous retient au service malgré nous, et fait que nous attendons toujours un événement ou une guerre. Je ne sais pas, et je venais vous en parler, s'il ne serait pas vrai de dire et d'écrire qu'il y a dans les armées une passion qui leur est particulière et qui leur donne la vie. Une passion qui ne tient ni de l'amour de la gloire ni de l'ambition. C'est une sorte de combat corps à corps contre la destinée, une lutte qui est la source de mille voluptés inconnues au reste des hommes, et dont les triomphes intérieurs sont remplis de magnificence. Enfin, c'est l'amour du danger. C'est vrai, me dit Timoléon. Et je poursuivis. Mais que serait-ce donc qui soutiendrait le marin sur la mer, qui le consolerait dans cet ennui d'un homme qui ne voit que des hommes? Il part et dit adieu à la terre, adieu au sourire des femmes, adieu à leur amour, adieu aux amitiés choisies, aux tendres habitudes de la vie, adieu aux bons vieux parents, adieu à sa belle nature des campagnes, aux arbres, aux gazons, aux fleurs qui sentent bon, aux rochers sombres, aux bois mélancoliques, pleins d'animaux silencieux et sauvages, adieu aux grandes villes, au travail perpétuel des arts, à l'agitation sublime de toutes les pensées dans l'obscurité de la vie, aux relations élégantes, mystérieuses et passionnées du monde. Il dit adieu à tout et part. Il va trouver trois ennemis, l'eau, l'air et l'homme. Et toutes les minutes de sa vie vont en avoir un à combattre. Cette magnifique inquiétude le délivre de l'ennui. Il vit dans une perpétuelle victoire. C'en est une que de passer seulement sur l'océan et de ne pas s'engloutir en sombrant. C'en est une que d'aller où il veut et de s'enfoncer dans les bras du vent contraire. C'en est une que de courir devant l'orage et de s'en faire suivre comme d'un valet. C'en est une que d'y dormir et d'y établir son cabinet d'études. Il se couche avec le sentiment de sa royauté sur le dos de l'océan, comme Saint Jérôme sur son lion, et jouit de la solitude qui est aussi son épouse. C'est grand, dit Timoléon, et je remarquai qu'il posait la lettre sur la table. Et c'est l'amour du danger qui le nourrit, qui fait que jamais il n'est un moment désœuvré, qui se sent en lutte et qu'il a un but. C'est la lutte qu'il nous faut toujours. Si nous étions en campagne, vous ne souffririez pas tant. Qui sait, dit-il. Vous êtes aussi heureux que vous pouvez l'être. Vous ne pouvez pas avancer dans votre bonheur. Ce bonheur-là est une impasse véritable. Trop vrai, oui, trop vrai, l'entendis-je murmurer. Vous ne pouvez pas empêcher qu'elle n'ait un jeune mari et un enfant. Et vous ne pouvez pas conquérir plus de liberté que vous en avez. Voilà votre supplice, à vous. » Il me serra la main. « Mais toujours mentir, dit-il, mais croyez-vous que nous ayons la guerre ?»« Non, je n'en crois pas un mot, répondis-je. »« Oh, si je pouvais seulement savoir si elle est au bal ce soir, je lui avais bien défendu d'y aller. » « Ah, je me serais bien aperçu sans ce que vous me dites là qu'il est minuit, lui dis-je. Vous n'avez pas besoin d'Austerlitz, mon ami, vous êtes assez occupé. Vous pouvez dissimuler et mentir encore pendant plusieurs années. Allez, bonsoir. » Chapitre 3. Le concert de famille. Comme j'allais me retirer, je m'arrêtai la main sur la clé de sa porte, écoutant avec étonnement une musique assez rapprochée et venue du château même. Entendue de la fenêtre, elle nous sembla formée de deux voix d'homme, d'une voix de femme et d'un piano. C'était pour moi une douce surprise à cette heure de la nuit. Je proposai à mon camarade de l'aller écouter de plus près. Le petit pont le vit, parallèle au grand et destiné à laisser passer le gouverneur et les officiers pendant une partie de la nuit, était ouvert encore. Nous rentrâmes dans le fort et, en rôdant par les cours, nous fûmes guidés par le son jusque sous les fenêtres ouvertes que je reconnus pour celles d'un bon vieux adjudant d'artillerie. Ces grandes fenêtres étaient au rez-de-chaussée et, nous arrêtant en face, nous découvrîmes jusqu'au fond de l'appartement la simple famille de cet honnête soldat. Il y avait, au fond de la chambre, un petit piano de bois d'acajou garni de vieux ornements de cuivre. L'adjudant, tout âgé et tout modeste qui nous avait paru d'abord, était assis devant le clavier et jouait une suite d'accords, d'accompagnements et de modulations simples, mais harmonieusement unies entre elles. Il tenait les yeux élevés au ciel et n'avait point de musique devant lui. Sa bouche était entr'ouverte avec délice sous l'épaisseur de ses longues moustaches blanches. Sa fille, debout à sa droite, allait chanter ou venait de s'interrompre, car elle regardait avec inquiétude la bouche entr'ouverte encore comme lui. À sa gauche, un jeune sous-officier d'artillerie légère de la garde, vêtu de l'uniforme sévère de ce beau corps, regardait cette jeune personne comme s'il n'eût pas cessé de l'écouter. Rien de si calme que leur pose, rien de si décent que leur maintien, rien de si heureux que leur visage. Le rayon qui tombait d'en haut sur ces trois fronts n'y éclairait pas une expression soucieuse, et le doigt de Dieu n'y avait écrit que bonté, amour et pudeur. Le froissement de nos épées sur le mur les avertit que nous étions là. Le brave homme nous vit et son front chauve en rougit de surprise, et je pense aussi de satisfaction. Il se leva avec empressement, et prenant un des trois chandeliers qui l'éclairait, vint nous ouvrir et nous fit asseoir. Nous le priâmes de continuer son concert de famille, et avec une simplicité noble, sans s'excuser et sans demander d'indulgence, il dit à ses enfants « Où en étions-nous ?» Et les trois voix se levèrent en chœur avec une indicible harmonie. Thibault-Léon écoutait et restait sans mouvement. Pour moi, cachant ma tête et mes yeux, je me mis à rêver avec un attendrissement qui, je ne sais pourquoi, était douloureux. Ce qu'il chantait emportait mon âme dans des régions de larmes et de mélancoliques félicités, et poursuivi peut-être par l'importune idée de mes travaux du soir, je changeais en mobiles images les mobiles modulations des voix. Ce qu'il chantait était une de ces chœurs écossais, une de ces anciennes mélodies des bardes que chante encore l'écho sonore des orcades. Pour moi, ce cœur mélancolique s'élevait lentement et s'évaporait tout à coup comme les brouillards des montagnes d'Ossian. Ces brouillards qui se forment sur l'écume mousseuse des torrents de l'Arvène s'épaississent lentement et semblent se gonfler et se grossir en montant d'une foule innombrable de fantômes tourmentés et tordus par les vents. Ce sont des guerriers qui rêvent toujours, le casque appuyé sur la main et dont les larmes et le sang tombent goutte à goutte dans les eaux noires des rochers. Ce sont des beautés pâles dont les cheveux s'allongent en arrière, comme les rayons d'une lointaine comète, et se fondent dans le sein humide de la lune. Elles passent vite, et leurs pieds s'évanouissent enveloppés dans les plis vaporeux de leur robe blanche. Elles n'ont pas d'ailes et volent. Elles volent en tenant des harpes. Elles volent les yeux baissés et la bouche entr'ouverte avec innocence. Elles jettent un cri en passant et se perdent en montant dans la douce lumière qui les appelle. Ce sont des navires aériens qui semblent se heurter contre des rives sombres et se plonger dans des flots épais. Les montagnes se penchent pour les pleurer et les dogues noirs élèvent leurs têtes difformes et hurlent longuement en regardant le disque qui tremble au ciel, tandis que la mer secoue les colonnes blanches des orcades qui sont rangées comme les tuyaux d'un orgue immense et répandent sur l'océan une harmonie déchirante et mille fois prolongée dans la caverne où les vagues sont enfermées. Et la musique se traduisait ainsi en sombres images dans mon âme, bien jeune encore, ouverte à toutes les sympathies et comme amoureuse de ces douleurs fictives. C'était d'ailleurs revenir à la pensée de celui qui avait inventé ces chants tristes et puissants que de les sentir de la sorte. La famille heureuse éprouvait elle-même la forte émotion qu'elle donnait, et une vibration profonde faisait quelquefois trembler les trois voix. Le chant cessa, et un long silence lui succéda. La jeune personne, comme fatiguée, s'était appuyée sur l'épaule de son père. Sa taille était élevée, un peu ployée, comme par faiblesse. Elle était mince et paraissait avoir grandi trop vite, et sa poitrine un peu amaigrie en paraissait affectée. Elle baisait le front chauve, large et ridé de son père, et abandonnait sa main au jeune sous-officier qui la pressait sur ses lèvres. Comme je me serais bien gardé, par amour propre, d'avouer tout haut mes rêveries intérieures, je me contentais de dire froidement « Oh, que le ciel accorde de longs jours et toutes sortes de bénédictions à ceux qui ont le don de traduire la musique littéralement. Pas je puis trop admirer un homme qui trouve à une symphonie le défaut d'être trop cartésienne et à une autre de pencher vers le système de Spinoza. » Qui serait écrit sur le panthéisme d'un trio et l'utilité d'une ouverture à l'amélioration de la classe la plus nombreuse. Si j'avais le bonheur de savoir comme quoi un bémol de plus à la clé peut rendre un quatuor de flûte et de basson plus partisan du directoire que du consulat et de l'empire, je ne parlerais plus, je chanterais éternellement. Je foulerais aux pieds des mots et des phrases qui ne sont bons tout au plus que pour une centaine de départements. Tandis que j'aurai le bonheur de dire mes idées fort clairement à tout l'univers avec mes 7 notes. Mais, dépourvu de cette science comme je suis, ma conversation musicale serait si bordée que mon seul parti à prendre est de vous dire, en langue vulgaire, la satisfaction que me cause surtout votre vue et le spectacle de l'accord plein de simplicité et de bonhomie qui règne dans votre famille. C'est au point que ce qui me plaît le plus dans votre petit concert, c'est le plaisir que vous y prenez. Vos âmes me semblent plus belles encore que la plus belle musique que le ciel ait jamais entendue monter à lui, de notre misérable terre, toujours gémissante. Je tendis la main avec effusion à ce bon père, et il la serra avec l'expression d'une reconnaissance grave. Ce n'était qu'un vieux soldat. Mais il y avait dans son langage et ses manières je ne sais quoi de l'ancien bon ton du monde. La suite me l'expliqua. « Voici, mon lieutenant, me dit-il, la vie que nous menons ici. Nous nous reposons en chantant, ma fille, moi et mon gendre futur. » Il regardait en même temps ces beaux jeunes gens avec une tendresse toute rayonnante de bonheur. « Voici, ajouta-t-il d'un air plus grave, en nous montrant un petit portrait, la mère de ma fille. » Nous regardâmes la muraille blanchie de plâtre de la modeste chambre, et nous y vîmes en effet une miniature qui représentait la plus gracieuse, la plus fraîche petite paysanne que j'avais greuse et douée de grands yeux bleus et de bouche en forme de cerise. « Ce fut une bien grande dame qui eut autrefois la bonté de faire ce portrait-là, » me dit l'adjudant. « Et c'est une histoire curieuse que celle de la dot de ma pauvre petite femme. » Et à nos prières premières de raconter son mariage, il nous parla ainsi autour de 3 verres d'absinthe, verres qu'il eut soin de nous offrir préalablement et cérémonieusement. Alfred de Vigny, Servitude et grandeur militaire, Histoire de l'adjudant, les enfants de Montreuil et le tailleur de pierre. Vous saurez, mon lieutenant, que j'ai été élevé au village de Montreuil par monsieur le curé de Montreuil lui-même. Il m'avait fait apprendre quelques notes du plein chant dans le plus heureux temps de ma vie, le temps où j'étais enfant de cœur, où j'avais de grosses joues fraîches et rebondies que tout le monde tapait en passant. Une voix claire, des cheveux blonds poudrés, une blouse et des sabots. Je ne me regarde pas souvent, mais je m'imagine que je ressemble plus guère à cela. J'étais fait ainsi pourtant, et je pouvais me résoudre à quitter une sorte de clavecin aigre et discorde que le vieux curé avait chez lui. Je l'accordais avec assez de justesse d'oreille, et le bon père, qui autrefois avait été renommé à Notre-Dame pour chanter et enseigner le faux bourdon, me faisait apprendre un vieux solfège. Et quand il était content, il me pinçait les joues à me les prendre bleues et me disait « Tiens, Mathurin, tu n'es que le fils d'un paysan et d'une paysanne, mais tu sais bien ton catéchisme et ton solfège, et que tu renonces à jouer avec le fusil rouillé de la maison, on pourra faire de toi un maître de musique. Va toujours. » Cela me donnait bon courage, et je frappais de tous mes poings sur les deux pauvres claviers, dont les dièses étaient presque tous muets. Il y avait des heures où j'avais la permission de me promener et de courir. Mais la récréation la plus douce était d'aller m'asseoir au bout du parc de Montreuil et de manger mon pain avec les maçons et les ouvriers qui construisaient sur l'avenue de Versailles, à 100 pas de la barrière, un petit pavillon de musique par ordre de la reine. C'était un lieu charmant que vous pourrez voir à droite de la route de Versailles en arrivant. Tout à l'extrémité du parc de Montreuil, au milieu d'une pelouse de gazon, entourée de grands arbres, si vous distinguez un pavillon qui ressemble à une mosquée et à une bonbonnière, eh bien c'est cela que j'allais regarder bâtir. Je prenais par la main une petite fille de mon âge, qui s'appelait Pierrette, que monsieur le curé faisait chanter aussi parce qu'elle avait une jolie voix. Elle emportait une grande tartine que lui donnait la bonne du curé, qui était sa mère, et nous allions regarder bâtir la petite maison que faisait faire la reine pour la donner à madame. Pierrette et moi, nous avions environ 13 ans. Elle était déjà si belle qu'on l'arrêtait sur son chemin pour lui faire compliment, et que j'ai vu de belles dames descendre de carrosse pour lui parler et embrasser. Quand elle avait un fourreau rouge relevé dans ses poches et bien serré de la ceinture, on voyait bien ce que sa beauté serait un jour. Elle n'y pensait pas, et elle m'aimait comme son frère. Nous sortions toujours en nous tenant par la main depuis notre petite enfance, et cette habitude était si bien prise que de ma vie je lui donnais le bras. Notre coutume d'aller visiter les ouvriers nous fit faire la connaissance d'un jeune tailleur de pierre, plus âgé que nous de 8 ou 10 ans. Il nous faisait asseoir sur un moellon ou par terre à côté de lui, et quand il avait une grande pierre à scier, Pierrette jetait de l'eau sur la scie et j'en prenais l'extrémité pour l'aider. Là aussi, ce fut mon meilleur ami dans ce monde. Il était d'un caractère très paisible, très doux, et quelquefois un peu gai, mais pas souvent. Il avait fait une petite chanson sur les pierres qu'il taillait, et sur ce qu'elles étaient plus dures que le cœur de Pierrette, et ils jouaient en sans façon sur ces mots de pierre, de pierrette, de pierrerie, de pierrier, de pierrot, et cela faisait rire tous trois. C'était un grand garçon, grandissant encore, tout pâle et dégingandé, avec de longs bras et de grandes jambes, et qui quelquefois avait l'air de ne pas penser à ce qu'il faisait. Il aimait son métier, disait-il, parce qu'il pouvait gagner sa journée en conscience, ayant songé à autre chose jusqu'au coucher du soleil. Son père, architecte, s'était si bien ruiné, je ne sais comment, qu'il fallait que le fils reprît son état par le commencement, et il était fort paisiblement résigné. Lorsqu'il taillait un gros bloc ou le scier long, il commençait toujours une petite chanson dans laquelle il y avait toute une historiette qu'il bâtissait à mesure qu'il allait en 20 ou 30 couplets, plus ou moins. Quelquefois, il me disait de me promener devant lui avec Pierrette, et il nous faisait chanter ensemble, nous apprenant à chanter en partie. Ensuite, il s'amusait à me faire mettre à genoux devant Pierrette, la main sur son cœur. Et il faisait les paroles d'une petite scène qu'il nous fallait redire après lui. Cela n'empêchait pas de bien connaître son état, car il ne fut pas un an sans devenir maître maçon. Il avait à courir avec son équerre et son marteau, à mourir ma pauvre mère et deux petits frères qui venaient le regarder travailler avec nous. Et quand il voyait autour de lui tout son petit monde, cela lui donnait du courage et de la gaieté. Mais pour vous dire toute la vérité, de suite, il s'appelait Michel-Jean Sedaine. Chapitre 2. Un soupir. Hélas, dis-je, Paul un poète bien à sa place. La jeune personne et le sous-officier se regardèrent comme affligés de voir interrompre leur bon père. Mais le digne adjudant reprit la suite de son histoire, après avoir relevé de chaque côté la cravate noire qu'il portait, doublée d'une cravate blanche attachée militairement. Chapitre 3. La Dame Rose. C'est une chose qui me paraît bien certaine, mes chers enfants, dit-il en se tournant du côté de sa fille, que le soin que la Providence a daigné prendre de composer ma vie comme elle l'a été. Dans les orages sans nombre qui l'ont agité, je puis dire en face de toute la terre que je n'ai jamais manqué de me fier à Dieu et d'en attendre du secours, après m'être aidé de toutes mes forces. Aussi, vous dis-je, en marchant sur les flots agités, je n'ai pas mérité d'être appelé homme de peu de foi, comme le fut l'apôtre. Et quand mon pied s'enfonçait, je levais les yeux, et j'étais relevé. Ici, je regardais Timoléon. « Il vaut mieux que nous, » dis-je tout bas. Il poursuivit. « Monsieur le curé de Montreuil m'aimait beaucoup. J'étais traité par lui avec une amitié si paternelle que j'avais oublié entièrement que j'étais né, comme il ne cessait de me le rappeler, d'un pauvre paysan et d'une pauvre paysanne enlevés presque en même temps de la petite Vérole que je n'avais même pas vue. À 16 ans, j'étais sauvage et sot, mais je savais un peu de latin, beaucoup de musique, et dans toutes sortes de travaux de jardinage, on me trouvait assez adroit. Ma vie était fort douce et fort heureuse, parce que Pierrette était toujours là, et que je la regardais toujours en travaillant, sans lui parler beaucoup, cependant. Et un jour que je taillais les branches d'un des hêtres du parc et que je lisais lié un petit fagot, Pierrette me dit « Oh, Mathurin, j'ai peur. Voilà deux jolies dames qui viennent de vers nous par le bout de l'allée. Comment allons-nous faire ?» Je regardais, et en effet, je vis deux jeunes femmes qui marchaient vite sur les feuilles sèches et ne se donnaient pas le bras. Il y en avait une un peu plus grande que l'autre, vêtue d'une petite robe de soie rose. Elle courait presque en marchant, et l'autre, tout en l'accompagnant, marchait presque en arrière. Par instinct, je fus saisi d'effroi comme un pauvre paysan que j'étais, et je dis à Pierrette « Sauvons-nous ?» Mais nous n'eûmes pas le temps, et ce qui redoubla ma peur, ce fut de voir la Dame Rose faire signe à Pierrette, qui devint toute rouge et n'osa pas bouger, et me prit bien vite par la main pour se raffermir. Moi, j'ôtai mon bonnet, et je m'adossai contre l'arbre, tout saisi. Quand la Dame Rose fut tout à fait arrivée sur nous, elle alla droit à Pierrette et, sans façon, elle lui prit le menton pour la montrer à l'autre dame en disant « Et je vous le disais bien, c'est tout mon costume de laitière pour jeudi. Oh, la jolie petite fille que voilà, oh, mon enfant, tu donneras tous tes habits, comme les voici aux gens qui viendront te les demander de ma part, n'est-ce pas? Je t'enverrai les miens en échange. » « Oh, madame !» dit Pierrette en reculant. L'autre jeune dame se mit à sourire d'un air fin, tendre et mélancolique, dont l'expression touchante est ineffaçable pour moi. Elle s'avança, la tête penchée, et prenant doucement le bras nu de Pierrette, elle lui dit de s'approcher et qu'il fallait que tout le monde fût la volonté de cette dame-là. Ne va pas t'aviser de rien changer à ton costume, ma belle petite, reprit la dame Rose, en la menaçant d'une petite canne de jonc à pomme d'or qu'elle tenait à la main. Voilà un grand garçon qui sera soldat, et je vous marierai. Elle était si belle que je me souviens de la tentation incroyable que j'eus de me mettre à genoux. Vous en rirez, et j'en ai ri souvent depuis en moi-même, mais si vous l'aviez vue, vous auriez compris ce que je dis. Elle avait l'air d'une petite fée et bien bonne. Elle parlait vite et gaiement, et en donnant une petite tape sur la joue de Pierrette, elle nous laissa là, tous les deux interdits et tout imbéciles, ne sachant que faire. Et nous vîmes les deux dames suivre l'allée du côté de Montreuil et s'enfoncer dans le parc, derrière le petit bois. Alors nous nous regardâmes, et en nous tenant toujours par la main, nous rentrâmes chez monsieur le curé. Nous disions rien, mais nous étions bien contents. Pierrette était toute rouge, et moi je baissais la tête. Il nous demanda ce que nous avions, et je lui dis, moi, d'un grand sérieux, « Monsieur le curé, je veux être soldat. » Il pensa en tomber à la renverse, puis qui m'avait appris le solfège. « Comment, mon cher enfant, me dit-il, tu veux me quitter? Oh, mon Dieu! Pierrette, qu'est-ce qu'on lui a donc fait, qui veut être soldat? Est-ce que tu ne m'aimes plus, Mathurin? Est-ce que tu n'aimes plus Pierrette non plus? Mais qu'est-ce que nous t'avons donc fait, dis? Et que vas-tu faire de la belle éducation que je t'ai donnée? Oh, c'était bien du temps perdu, assurément. Mais réponds donc, méchant sujet, ajoutait-il en me secouant le bras. Oh, je me grattais la tête et je disais toujours en regardant mes sabots, je veux être soldat. La mère de Pierrette apporta un grand verre d'eau froide à monsieur le curé parce qu'il était devenu tout rouge et elle se mit à pleurer. Pierrette pleurait aussi et n'osait rien dire, mais elle n'était pas fâchée contre moi parce qu'elle savait bien que c'était pour l'épouser que je voulais partir. Et dans ce moment-là, deux grands laquais poudrés entrèrent avec une femme de chambre qui avait l'air d'une dame. Et ils demandèrent si la petite avait préparé les hardes que la reine et madame la princesse de Lamballe lui avaient demandées. Le pauvre curé se leva si troublé qu'il ne put se tenir une minute debout, et Pierrette et sa mère tremblèrent si fort qu'ils n'osèrent pas ouvrir une cassette qu'on leur envoyait en échange du fourreau et du bavolet, et elles allèrent à la toilette à peu près comme on va se faire fusiller. Or, seul avec moi, le curé me demanda ce qui s'était passé, et je le lui dis comme je voulais compter, mais un peu plus brièvement. « Et c'est pour cela que tu veux partir, mon fils, » me dit-il, en me prenant les deux mains. « Mais songe donc que la plus grande dame de l'Europe n'a parlé ainsi à un petit paysan comme toi que par distraction, et ne sait seulement pas ce qu'elle t'a dit. » Si on lui racontait que tu as pris cela pour un ordre ou pour un horoscope, elle dirait que tu es un grand benêt et que tu peux être jardinier toute ta vie, que cela lui est égal. Ce que tu gagnes en jardinant et ce que tu gagnerais en enseignant la musique vocale t'appartiendrait, mon ami. Au lieu que ce que tu gagneras dans un régiment ne t'appartiendra pas et tu auras mis l'occasion de le dépenser en plaisir défendu par la religion et la morale. Tu perdras tous les bons principes que je t'ai donnés. Et tu me forceras à rougir de toi. Tu reviendras aussi, tu reviens, avec un autre caractère que celui que tu as reçu en naissant. Tu étais doux, modeste, tranquille, tu te souviendras rude, impudent et tapageur. La petite Pierrette ne se soumettra certainement pas à être la femme d'un mauvais garnement, et sa mère l'en empêcherait quand elle le voudrait. Et moi, que pourrais-je faire pour toi si tu oublies tout à fait la Providence? Tu l'oublieras, vois-tu, la Providence. Ah, je t'assure que tu finiras par là. Oh, je demeurais les yeux fixés sur mes sabots et les sourcils froncés en faisant la moue. Et je dis, en me grattant la tête, c'est égal, je veux être soldat. Le bon curé dit un pas et ouvrant la porte toute grande, il me montra le grand chemin avec tristesse. Je compris sa pantomime et je sortis. Oh, j'en aurais fait autant à sa place, assurément. Mais je le pense à présent. Et ce jour-là, je ne le pensais pas. Je mis mon bonnet de coton sur l'oreille droite, je relevais le collet de ma blouse, pris mon bâton, et je m'en allais tout droit à un petit cabaret sur l'avenue de Versailles, sans dire adieu à personne. Chapitre 4. La position du premier rang. Dans ce petit cabaret, je trouvais trois braves dont les chapeaux étaient galonnés d'or, l'uniforme blanc, les revers roses, les moustaches cirées de noir, les cheveux tout poudrés à frimas et qui parlaient aussi vite que des vendeurs d'or vieux temps. Ces trois braves étaient d'honnêtes racoleurs. Ils me dirent que je n'avais qu'à m'asseoir à table avec eux pour avoir une idée juste du bonheur parfait que l'on goûtait éternellement dans le royal d'Auvergne. Ils me firent manger du poulet, du chevreuil et des perdreaux, boire du vin de Bordeaux et de champagne et du café excellent. Ils me jurèrent sur leur honneur que dans le royal Auvergne, je n'en aurais jamais d'autre. Je vis bien depuis qu'ils avaient dit vrai. Ils me jurèrent aussi, car ils juraient infiniment, que l'on jouissait de la plus douce liberté dans le royal Auvergne, que les soldats y étaient incomparablement plus heureux que les capitaines des autres corps, qu'on y jouissait d'une société fort agréable en hommes et en belles dames, et qu'on y faisait beaucoup de musique, et surtout qu'on y appréciait fort ceux qui jouaient du piano. Cette dernière circonstance me décida. Le lendemain, j'avais donc l'honneur d'être soldat au Royal Auvergne. C'était un assez beau corps, il est vrai, mais je ne voyais plus ni Pierrette, ni monsieur le curé. Je demandais du poulet à dîner, et l'on me donna à manger cet agréable mélange de pommes de terre, de mouton et de pain, qui se nommait, cela, mais sans doute se nommera toujours, la ratatouille. On me fit apprendre la position du soldat sans armes, avec une perfection si grande, que je servis de modèle, depuis au décidateur qui fit les planches de l'ordonnance de 1791, ordonnance qui, vous le savez, mon lieutenant, est un chef-d'œuvre de précision. On m'a pris l'école de soldats et l'école de peloton, de manière à exécuter la charge en 12 temps, les charges précipitées et les charges à volonté, en comptant ou sans compter les mouvements, aussi parfaitement que le plus roide des caporaux du roi de Prusse, Frédéric le Grand, dont les vieux se souvenaient encore avec l'attendrissement de gens qui aiment ceux qui les battent. On me fit l'honneur de me promettre que, si je me comportais bien, je finirais par être admis dans la première compagnie de grenadiers. Et j'eus bientôt une queue poudrée qui tombait sur ma veste blanche assez noblement, mais je ne voyais plus jamais ni Pierrette, ni sa mère, ni monsieur le curé de Montreuil, et je ne faisais point de musique. Un beau jour, comme j'étais consigné à la caserne même où nous voici, pour avoir fait 3 fautes dans le maniement d'armes, on me plaça dans la position des feux du premier rang, un genou sur le pavé, ayant en face de moi un soleil éblouissant et superbe, que j'étais forcé de coucher en joue, dans une immobilité parfaite, jusqu'à ce que la fatigue me fît ployer les bras à la saignée. Et j'étais encouragé à soutenir mon arme par la présence d'un honnête caporal, qui de temps en temps soulevait ma baïonnette avec sa crosse quand elle s'abaissait. Peut-être une petite punition de l'invention de M. de Saint-Germain. Il y avait 20 minutes que je m'appliquais à atteindre le plus haut degré de pétrification possible dans cette attitude lorsque je vis au bout de mon fusil la figure douce et paisible de mon bon ami Michel, tailleur de pierre. « Oh, tu viens bien à propos, mon ami, lui dis-je, et tu me rendrais un grand service si tu voulais bien, sans qu'on s'en aperçût, mettre un moment ta canne sous ma baïonnette. Mes bras s'en trouveraient mieux et ta canne ne s'en trouverait pas plus mal. »« Oh, Mathurin, mon ami, me dit-il, oh, te voilà bien puni d'avoir quitté Montreuil. Tu n'as plus les conseils et les lectures du bon curé. » Et tu vas oublier tout à fait cette musique que tu aimais tant, et celle de la parade ne la vaudra certainement pas. C'est égal, dis-je en élevant le bout du canon de mon fusil et le dégageant de sa canne par orgueil. C'est égal, on a son idée. Mais tu ne cultiveras plus les espaliers et les belles pêches de Montreuil avec la pierrette, qui est bien aussi fraîche qu'elle et dont la lèvre porte aussi comme elle un petit duvet. C'est égal, dis Jean Comte, j'ai mon idée. Tu passeras bien longtemps à genoux, à tirer sur rien, avec une pierre de bois, avant d'être seulement caporal. Ben, c'est égal, dis-je encore. Si j'avance lentement, toujours est-il vrai que j'avancerai. Tout vient à point, qui sait attendre, comme on dit, et quand je serai sergent, je serai quelque chose, et j'épouserai Pierrette. Un sergent, c'est un seigneur, et un tout seigneur, tout honneur. Michel soupira. Ah, oh, Mathurin, Mathurin, me dit-il, tu n'es pas sage, et tu as trop d'orgueil et d'ambition, mon ami. N'aimerais-tu pas mieux être remplacé si quelqu'un payait pour toi et venir épouser ta petite Pierrette? Michel, Michel, lui dis-je, tu t'es beaucoup gâté dans le monde. Je ne sais pas ce que tu y fais. Tu m'as plus l'air d'y être maçon, puisqu'au lieu d'une veste, un habit noir de taffetas. Mais tu m'aurais pas dit ça dans le temps où tu répétais toujours « Il faut faire son sort soi-même ». Moi, je ne veux pas l'épouser avec l'argent des autres et je fais moi-même mon sort, comme tu vois. D'ailleurs, c'est la reine qui m'a mis ça dans la tête. Et la reine ne peut pas se tromper en jugeant ce qui est bien à faire. Elle a dit elle-même « Il sera soldat et je les marierai ». Elle n'a pas dit « Il reviendra après avoir été soldat. » Mais, me dit Michel, si par hasard la reine te voulait donner de quoi l'épouser, le prendrais-tu? Non, Michel, je ne prendrais pas son argent, si par impossible elle le voulait. Et si Pierrette gagnait elle-même sa dot, reprit-il. Ah oui, Michel, je l'épouserai tout de suite, dis-je. Ce bon garçon avait l'air tout attendri. « Eh bien, reprit-il, je dirai cela à la reine. »« Est-ce que tu es fou, lui dis-je, ou domestique dans sa maison ?»« Non, ni l'un ni l'autre, Mathurin, quoique je ne taille plus la pierre. »« Que tailles-tu donc ?» disais-je. « Je taille des pièces, du papier et des plumes. » « Bon, dis-je, est-il possible ?»« Oui, mon enfant, je fais de petites pièces toutes simples et bien aisées à comprendre. Je te ferai voir tout ça. »« En effet, dit Timoléo en interrompant l'adjudant, les ouvrages de ce bon Sedaine ne sont pas construits sur des questions bien difficiles. On n'y trouve aucune synthèse sur le fini et l'infini, sur les causes finales, l'association des idées et l'identité personnelle. » On n'y tue pas des rois et des reines par le poison ou l'échafaud. Ça ne s'appelle pas de noms sonores environnés de leur traduction philosophique, mais ça se nomme Blaise, l'agneau perdu, le déserteur, ou bien le jardinier, son seigneur, la gageure imprévue. Ce sont des gens tout simples qui parlent vrai, mais qui sont philosophes sans le savoir, comme Sedaine lui-même, que je trouve plus grand qu'on ne l'a fait. Je ne répondis pas. L'adjudant reprit. « Eh ben, tant mieux, dis-je, autant te voir travailler ça que tes pierres de taille. Ah, ce que je bâtissais valait mieux que ce que je construis à présent. Ça ne passait pas de mode et ça restait plus longtemps debout. Mais en tombant, ça pouvait écraser quelqu'un, au lieu qu'à présent, quand ça tombe, ça n'écrase personne. » « C'est égal, je suis toujours bien aise, dis-je. C'est-à-dire, aurais-je dit ?» Car le caporal vint donner un si terrible coup de crosse dans la canne de mon vieil ami Michel, qu'il l'envoya là-bas, tenez là-bas, près de la poudrière. En même temps, il ordonna 6 jours de salle de police pour le factionnaire qui avait laissé entrer un bourgeois. Sedaine comprit bien qu'il fallait s'en aller. Il ramassa paisiblement sa canne, et en sortant du côté du bois, il me dit, Je t'assure, Martin, Mathurin, que je donnerai tout ceci à la reine. Chapitre 5. Une séance. Ma petite Pierrette était une belle petite fille, d'un caractère décidé, calme et honnête. Elle ne se déconcertait pas trop facilement, et depuis qu'elle avait parlé à la reine, elle ne se laissait plus aisément faire la leçon. Elle savait bien dire à monsieur le curé et à sa bonne qu'elle voulait épouser Mathurin, et elle se levait la nuit pour travailler à son trousseau, tout comme s'il n'avait pas été mis à la porte pour longtemps, sinon pour toute ma vie. Un jour, c'était le lundi de Pâques, et s'en était toujours souvenue, la pauvre Pierrette, elle me la racontait souvent. Un jour donc, elle était assise devant la porte de monsieur le curé, travaillant et chantant comme si de rien n'était. Elle vit arriver, vite, vite, un beau carrosse, dont les 6 chevaux trottaient dans l'avenue d'un train merveilleux, monté par 2 petits postillons poudrés et roses, très jolis et si petits qu'on ne voyait de loin que leurs grosses bottes à l'écuyère. Ils portaient de gros bouquets à leurs jabots, et les chevaux portaient aussi de gros bouquets sur l'oreille. Ne voyait-il pas que l'écuyer, qui courait en avant des chevaux, s'arrêta précisément devant la porte de monsieur le curé, où la voiture ou la montée s'arrêtait aussi, et des liasses s'ouvrirent toutes grandes. Il n'y avait personne dedans. Et comme Pierrette regardait avec de grands yeux, l'écuyer ôta son chapeau très poliment et la pria de vouloir bien monter en carrosse. Vous croyez peut-être que Pierrette fit des façons, point du tout. Elle avait trop de bon sens pour cela. Elle ôta simplement ses 2 sabots qu'elle laissa sur le pas de la porte, mit ses souliers à boucles d'argent, ploya proprement son ouvrage et monta dans le carrosse en s'appuyant sur le bras du valet de pied, comme si elle eût fait autre chose de sa vie, parce que depuis qu'elle avait changé de robe avec la reine, elle ne doutait plus de rien. Elle m'a dit souvent qu'elle avait eu 2 grandes frayeurs dans la voiture. La première, parce qu'on allait si vite que les arbres de l'avenue de Montreuil lui paraissaient courir comme des fous l'un après l'autre. Et la seconde, parce qu'il lui semblait qu'en s'asseyant sur les coussins blancs du carrosse, elle y laisserait une tache bleue et jaune de la couleur de son jupon. Elle le releva dans ses poches et se tint toute droite au bord du coussin, nullement tourmentée de son aventure, et devinant bien qu'en pareille circonstance, il est bon de faire ce que tout le monde veut, franchement, et sans hésiter. D'après ce sentiment juste de sa position que lui donnait une nature heureuse, douce et disposée au bien et au vrai en toutes choses, elle se laissa parfaitement donner le bras par l'écuyer et conduire à Trianon, dans les appartements dorés, où seulement il soit de marcher sur la pointe du pied, par égard pour les parquets de bois de citron et de bois des Indes, qu'elle craignait de rayer avec ses clous. Quand elle entra dans la dernière chambre, elle entendit un petit rire joyeux de 2 voix très douces, et qui la timida bien un peu et lui fit battre le cœur assez vivement. Mais en entrant, elle se trouva rassurée tout de suite. Ce n'était que son amie la reine. Madame de Lamballe était avec elle, mais assise dans une embrasure de fenêtre établie dans un pupitre de peintre en miniature. Sur le tapis vert du pupitre, un ivoire tout préparé. Près de l'ivoire, des pinceaux, et près des pinceaux, un verre d'eau. « Ah, la voilà !» dit la reine d'un air de fête, et elle court lui prendre les 2 mains. « Comme elle est fraîche, comme elle est jolie, le joli petit modèle que cela fait pour vous, allons !»« Ne la manquez pas, madame de Lamballe, et toi là, mon enfant !» Et la belle Marie-Antoinette la fit asseoir de force sur une chaise. Pierrette était tout à fait interdite, et sa chaise si haute que ses petits pieds pendaient et se balançaient. « Mais voyez donc comme elle se tient bien, » continue la reine, « elle ne se fait pas dire 2 fois ce que l'on veut. Je gage qu'elle a de l'esprit. Tiens-toi droite, mon enfant, et écoute-moi. Il va venir 2 messieurs ici. Que tu les connaisses ou non, cela ne fait rien, cela ne te regarde pas. Tu feras tout ce qu'ils te diront de faire. » Je sais que tu chantes, tu chanteras. Et quand ils te diront d'entrer, de sortir, d'aller, venir, tu entreras, tu sortiras, tu iras et tu viendras. Bien exactement, entends-tu? Tout cela, c'est pour ton bien. Madame et moi, nous les aiderons à t'enseigner quelque chose que je sais bien, et nous te demanderons pour nos peines que de poser tous les jours une heure devant madame. Cela ne t'afflige pas trop, n'est-ce pas? Pierrette ne répondait qu'en rougissant et en pâlissant à chaque parole. Mais elle était si contente qu'elle aurait voulu embrasser la petite reine comme sa camarade. Comme elle posait, et les yeux tournés vers la porte, elle vit entrer deux hommes, l'un gros et l'autre grand. Comme elle vit le grand, elle ne put s'empêcher de crier. « Tiens, mais c'est... » Elle se mordit les doigts pour se faire taire. « Eh bien, comment la trouvez-vous, messieurs ?» dit la reine. « Me suis-je trompée ?»« N'est-ce pas que c'est rose même ?» dit Sedaine. Une seule note, madame, dit le plus gros des deux, et je saurai si c'est la rose de Monsigny, comme elle est celle de Sedaine. Voyons, ma petite, répétez cette gamme, dit Gretry, en chantant. Ut ré mi fa sol, Pierrette le répéta. Elle a une voix divine, madame, dit-il. La reine frappa des mains et sauta. Elle gagnera sa dot, dit-elle. Chapitre 6 Une belle soirée. Ici, l'honnête adjudant goûta un peu de son petit verre d'absinthe en nous engageant à l'imiter, et après avoir essuyé sa moustache blanche avec un mouchoir rouge et l'avoir tourné un instant dans ses gros doigts, il poursuivit ainsi. « Oh, si je savais faire des surprises, mon lieutenant, comme on en fait dans les livres !» et faire attendre la fin d'une histoire en tenant la dragée haute aux auditeurs, et puis la faire goûter du bout des lèvres, et puis la relever, et puis la donner tout entière à manger, je trouverai une manière nouvelle de vous dire la suite de ceci. Mais je vais de fil en aiguille, tout simplement comme a été ma vie de jour en jour, et je vous dirai que depuis le jour où mon pauvre Michel était venu me voir ici à Vincennes et m'avait trouvé dans la position du premier rang, je maigris d'une manière ridicule parce que je n'entendis plus parler de notre petite famille de Montreuil et que je vins à penser que Pierrette m'avait oublié tout à fait. Le régiment d'Auvergne était à Orléans depuis 3 mois et le mal du pays commençait à m'y prendre. Je jaunissais à vue d'œil et je ne pouvais plus soutenir mon fusil. Mes camarades commençaient à me prendre en grand mépris comme on prend ici toute maladie, vous le savez. Il y en avait qui me dédaignaient parce qu'ils me croyaient très malade, et d'autres parce qu'ils soutenaient que je faisais semblant de l'être, et dans ce dernier cas, il me restait d'autre partie que de mourir pour prouver que je disais vrai, ne pouvant pas me rétablir tout à coup, ni être assez mal pour me coucher. Oh, fâcheuse position. Un jour, un officier de ma compagnie va me trouver et me dit « Mathurin, toi qui sais lire, lis un peu cela. » Et il me conduisit sur la place de Jeanne d'Arc, place qui m'est chère, où je lus une grande affiche de spectacle sur laquelle on avait imprimé ceci. Par ordre. Lundi prochain, représentation extraordinaire d'Irène, pièce nouvelle de Monsieur de Voltaire, et de Rose et Cola par M. Sedaine, musique de M. de Monsigny, au bénéfice de Mademoiselle Colombe, célèbre cantatrice de la comédie italienne, laquelle paraîtra dans la seconde pièce. Sa Majesté la Reine a daigné promettre qu'elle honorerait le spectacle de sa présence. Eh bien, dis-je, mon capitaine, qu'est-ce que cela peut me faire, ça? « Bien, tu es un bon sujet, me dit-il, tu es un beau garçon. Je te ferai poudrer, friser pour te donner un peu meilleur air, et tu seras placé en faction à la porte de la loge de la reine. » Ce qui fut dit fut fait. L'heure du spectacle venue, me voilà dans le corridor, en grande tenue du régiment d'Auvergne, sur un tapis bleu, au milieu des guirlandes de fleurs en feston qu'on avait disposées partout, et des lys épanouis sur chaque marge des escaliers du théâtre. Le directeur courait de tous côtés avec un air tout joyeux et agité. C'était un petit homme gros et rouge, vêtu d'un habit de soie bleu de ciel, avec un jabot florissant et faisant la roue. Il s'agitait en tous sens et ne cessait de se mettre à la fenêtre en disant « Ah, ceci est la livrée de Madame la Duchesse de Montmorency. Oh, ceci le coureur de Monsieur le Duc de Lauzun. Monsieur le Prince de Guéméné vient d'arriver. Monsieur de Lorbès vient après. Vous avez vu, vous savez. Oh, quelle est bonne la reine, que la reine est bonne !» Il passait, repassait effaré, cherchant Grétry, et le rencontra nez à nez dans le corridor, précisément en face de moi. Dites-moi, monsieur Grétry, mon cher monsieur Grétry, dites-moi, je vous en supplie, s'il n'est pas possible de parler à cette célèbre cantatrice que vous m'amenez. Certainement, il n'est pas permis à un ignare et non lettré comme moi d'élever le plus léger doute sur son talent, mais encore, voudrais-je bien apprendre de vous qu'il n'y a pas à craindre que la reine ne soit mécontente. On n'a pas répété. Hé hé, répondit Grétry d'un air de persiflage. Oh, il m'est impossible de vous répondre là-dessus, mon cher monsieur. Ce que je puis vous assurer, c'est que vous ne la verrez pas. Une actrice comme celle-là, monsieur, c'est une enfant gâtée. Mais vous la verrez quand elle entrera en scène. D'ailleurs, quand ce serait une autre que Mademoiselle Colombe, qu'est-ce que cela vous fait ? Comment, monsieur, moi, directeur du théâtre d'Orléans, n'aurais pas le droit, reprit-il en se gonflant les joues. Bon, aucun droit, mon brave directeur, dit Grétry. Mais comment se fait-il que vous doutiez un moment d'un talent dont Sedaine et moi avons répondu ? Poursuivit-il avec plus de sérieux. Je fus bien aise d'entendre ce nom cité avec autorité, et je prêtai plus d'attention. Le directeur, en homme qui savait son métier, voulut profiter de la circonstance. « Mais on ne me compte donc pour rien, disait-il. Mais de quoi ai-je l'air ? J'ai prêté mon nom au théâtre avec un plaisir infini, trop heureux de voir l'auguste princesse qui... »« À propos, dit Grétry, vous savez que je suis chargé de vous annoncer que ce soir la reine vous fera remettre une somme égale à la moitié de la recette générale. » Le directeur saluait avec une inclination profonde en reculant toujours, ce qui prouvait le plaisir que lui causait cette nouvelle. « Fi donc, monsieur, fi donc, je ne parle pas de cela, malgré le respect avec lequel je recevrai cette faveur. Mais vous ne m'avez rien fait d'espérer, qui va de votre génie et... Vous savez aussi qu'il est question de vous pour diriger la comédie italienne à Paris ? Ah, monsieur Grétry, mais on ne parle que de votre mérite à la cour. Tout le monde vous y aime beaucoup, et c'est pour cela que la reine a voulu voir votre théâtre. Un directeur est l'âme de tout. De lui vient le génie des auteurs, celui des compositeurs, des acteurs, des décorateurs, des dessinateurs, des allumeurs et même des balayeurs. C'est le principe et la fin de tout. La reine le sait bien. Vous avez triplé vos plages, j'espère. Mieux que cela, monsieur Grétry, elles sont à un louis. Je ne pouvais pas manquer de respect à la cour au point de les mettre à moins. En ce moment même, tout retentit d'un grand bruit de chevaux et de grands cris de joie, et la reine entra si vite que j'eus à peine le temps de présenter les armes, ainsi que la sentinelle placée devant moi. De beaux seigneurs parfumés la suivaient, et une jeune femme, que je reconnus pour celle qui l'accompagnait à Montreuil. Le spectacle commença tout de suite. Le Quint et cinq autres acteurs de la comédie française étaient venus jouer la tragédie d'Irène, et je m'aperçus que cette tragédie allait toujours son train, parce que la reine parlait et riait tout le temps qu'elle dura. On n'applaudissait pas par respect pour elle, comme c'est l'usage encore, je crois, à la cour. Mais quand vint l'opéra comique, elle ne dit plus rien, et personne ne souffla dans sa loge. Tout d'un coup, j'entendis une grande voix de femme qui s'élevait de la scène. et qui me remua les entrailles. Je tremblais, et je fus forcé de m'appuyer sur mon fusil. Il n'y avait qu'une voix comme celle-là dans le monde, une voix venant du cœur et résonnant dans la poitrine comme une harpe, une voix de passion. Oh, j'écoutais en appliquant mon oreille contre la porte, et à travers le rideau de gaz de la petite lucarne de la loge, j'entrevis les comédiens et la pièce qu'ils jouaient. Il y avait une petite personne qui chantait. Il était un oiseau gris comme une souris qui, pour loger ses petits, fit un petit nid et disait à son amant « Aimez-moi, aimez-moi, mon petit roi !» Et comme il était assis sur la fenêtre, elle avait peur que son père endormi ne se réveillât et ne vît que là. Elle changeait le refrain de sa chanson et elle disait « Oh, remontez vos jambes, car on les voit !» J'eus un frisson extraordinaire par tout le corps quand je vis à quel point cette rose ressemblait à Pierrette. C'était sa taille, c'était son même habit, son fourreau rouge et bleu, son jupon blanc, son petit air délibéré et naïf, sa jambe si bien faite et ses petits souliers à boucles d'argent avec ses bas rouges et bleus. « Mon Dieu !» me disais-je. « Oh, comme il faut que ces actrices soient habiles pour prendre ainsi tout de suite l'air des autres !»« Voilà cette fameuse Mademoiselle Colombe, qui loge dans un bel hôtel, qui est venue ici en poste, qui a plusieurs laquais, et qui va dans Paris vêtue comme une duchesse, et elle ressemble autant que cela à Pierrette. Mais on voit bien tout de même que ce n'est pas elle. Ma pauvre Pierrette ne chantait pas si bien, quoique sa voix soit au moins aussi jolie. » Je ne pouvais pas, cependant, cesser de regarder à travers la glace. J'y restais jusqu'au moment où l'on me poussa brusquement la porte sur le visage. La reine avait trop chaud et voulait que sa loge fût ouverte. J'entendis sa voix, elle parlait vite et haut. Je suis bien contente, le roi s'amusera bien de notre aventure. Monsieur le premier gentilhomme de la chambre peut dire à Mademoiselle Colombe qu'elle ne se repentira pas de m'avoir laissé faire les honneurs de son nom. Oh, que cela m'amuse !« Ma chère princesse, disait-elle à Madame de Lamballe, nous avons attrapé tout le monde ici. Tout ce qui est là fait une bonne action sans s'en douter. Voilà ce que la bonne ville d'Orléans, chantée de la grande cantatrice, et toute la cour qui voudrait l'applaudir. Oui, oui, allez, applaudissons !» En même temps, elle donna le signal des applaudissements, et toute la salle, ayant les mains déchaînées, ne laissa plus passer un mot de rose sans l'applaudir à tout rompre. La charmante reine était ravie. « C'est ici, dit-elle à Monsieur de Biron, qu'il y a 3 000 amoureux, mais ils le sont de rose, et non de moi, cette fois. » La pièce finissait, et les femmes en étaient à jeter leurs bouquets sur rose. « Et le véritable amoureux, où est-il donc ?» dit la reine à Monsieur le duc de Lauzun. Il sortit de la loge et fit signe à mon capitaine qui rôdait dans le corridor. Le tremblement me reprit. Je sentais qu'il allait m'arriver quelque chose, sans oser le prévoir ou le comprendre, ou seulement y penser. Mon capitaine se leva profondément et parla bas à Monsieur de Lauzun. La reine me regarda, je m'appuyai sur le mur pour ne pas tomber. On montait l'escalier et je vis Michel Sodden, suivi de Guétry et du directeur important et sot. Il conduisait Pierrette, la vraie Pierrette, ma Pierrette à moi, ma sœur, ma femme, ma Pierrette de Montreuil. Et le directeur cria de loin, « Oh, voici une belle soirée de 18 000 francs !» La reine se retourna et, parlant hors de sa loge, d'un air tout à la fois plein de franche gaieté et d'une bienfaisante finesse, elle prit la main de Pierrette. « Viens, mon enfant, dit-elle, il n'y a pas d'autre état qui fasse gagner sa dot en 1 heure de temps sans péché. Je reconduirai demain mon élève à monsieur le curé de Montreuil, qui nous absoudra toutes les deux, j'espère. Il te pardonnera bien d'avoir joué la comédie une fois dans ta vie. » C'est le moins que puisse faire une femme honnête. Ensuite, elle me salua. Me saluer, moi, qui étais plus d'à moitié mort, quelle cruauté! J'espère, dit-elle, que M. Mathurin voudra bien accepter à présent la fortune de Pierrette. Je n'y ajoute rien, elle l'a gagnée elle-même. Chapitre 7. Fin de l'histoire de l'adjudant. Ici, le bon adjudant se leva pour prendre le portrait qu'il nous fit passer encore une fois de main en main. « La voilà, disait-il, dans le même costume, ce bavolet et ce mouchoir au cou. La voilà telle que voulut bien la peindre Madame la princesse de Lamballe. C'est ta mère, mon enfant, disait-il à la belle personne qu'il avait près de lui sur son genou. Elle ne joua plus la comédie, car elle ne put jamais savoir que ce rôle de rose et cola, enseigné par la reine. Il était ému. Sa vieille moustache blanche tremblait un peu, il y avait une larme au-dessus. « Voilà une enfant qui a tué sa pauvre mère en naissant, » ajouta-t-il. « Il faut bien l'aimer pour lui pardonner cela. Mais enfin, tout ne nous est pas donné à la fois. Ça aurait été trop apparemment pour moi, puisque la Providence l'a pas voulu. J'ai roulé depuis avec les canons de la République et de l'Empire, et je peux dire que de Marengo à la Moscova, oh, j'ai eu de bien belles affaires. Mais je n'ai pas eu de plus beaux jours dans ma vie que celui que je vous ai raconté là. Celui où je suis entré dans la garde royale a été aussi un des meilleurs. J'ai repris avec tant de joie la cocarde blanche que j'avais dans le royaume d'Auvergne. Et aussi, mon lieutenant, je tiens à faire mon devoir, comme vous l'avez vu. Je crois que je mourrais de honte si demain, à l'inspection, il me manquait une garcousse seulement. Et je crois qu'on a pris un baril au dernier exercice à feu pour les cartouches de l'infanterie. J'aurais presque envie d'y aller voir si c'était la défense d'y entrer avec des lumières. Nous le priâmes de se reposer et de rester avec ses enfants qui le détournèrent de son projet. Et en achevant son petit verre, il nous dit encore quelques traits indifférents de sa vie. Il n'avait pas eu d'avancement parce qu'il avait toujours trop aimé les corps d'élite et s'était trop attaché à son régiment. Canonnier dans la garde des consuls, sergent dans la garde impériale, lui avait toujours paru de plus haut grade qu'officier de la ligne. J'ai vu beaucoup de grognards pareils. Au reste, tout ce qu'un soldat peut avoir de dignité, il l'avait. Fusil d'honneur à capucine d'argent, croix d'honneur pensionnée, et surtout, beaux et nobles états de service, où la colonne des actions d'éclat était pleine. C'était ce qu'il ne racontait pas. Il était 2 heures du matin. Nous fîmes cesser la veillée en nous levant et en serrant cordialement la main de ce brave homme, et nous le laissâmes heureux des émotions de sa vie qu'il avait renouvelées dans son âme honnête et bonne. « Combien de fois, dis-je, ce vieux soldat, vaut-il mieux avec sa résignation que nous autres jeunes officiers avec nos ambitions folles ?» Cela nous donna à penser. « Oui, je crois bien, continuai-je en passant le petit pont qui fut levé après nous, je crois que ce qu'il y a de plus pur dans nos temps, c'est l'âme d'un soldat pareil, scrupuleux sur son honneur, et le croyant souillé par la moindre tâche d'indiscipline ou de négligence, sans ambition, sans vanité, sans luxe, toujours esclave et toujours fier et content de sa servitude, n'ayant de chair dans sa vie qu'un souvenir de reconnaissance. Et croyant que la Providence a des yeux sur lui, me dit Timoléon d'un air profondément frappé, et me quittant pour se retirer chez lui. Chapitre 8. Le réveil. Il y avait 1 heure que je dormais. Il était 4 heures du matin, c'était le 17 août, oh, je ne l'ai pas oublié. Tout à coup, mes 2 fenêtres s'ouvrirent à la fois, et toutes leurs vitres cassées tombèrent dans ma chambre avec un petit bruit argentin fort joli à entendre. J'ouvris les yeux, et je vis une fumée blanche qui entrait doucement chez moi, et venait jusqu'à mon lit en formant 1000 couronnes. Je me mis à la considérer avec des regards un peu surpris, et je la reconnus aussi vite à sa couleur qu'à son odeur. Je courus à la fenêtre. Le jour commençait à poindre et éclairait de leur lueur tendre tout ce vieux château immobile et silencieux encore, et qui semblait dans la stupeur du premier coup qu'il venait de recevoir. Je n'y vis rien remuer. Seulement le vieux grenadier, placé sur le rempart et enfermé là au verrou, selon l'usage, se promenait très vite, l'arme au bras, en regardant du côté des cours. Il allait comme un lion dans sa cage. Tout se taisant encore, je commençais à croire qu'un essai d'armes fait dans les fossés avait été cause de cette commotion, lorsqu'une explosion plus violente se fit entendre. Je vis naître en même temps un soleil qui n'était pas celui du ciel et qui se levait sur la dernière tour du côté du bois. Ses rayons étaient rouges et à l'extrémité de chacun d'eux, il y avait un obus qui éclatait. Devant eux, un brouillard de poudre. Cette fois, le donjon, les casernes, les tours, les remparts, les villages et les bois tremblèrent et parurent glisser de gauche à droite et revenir comme un tiroir ouvert et renfermé sur le champ. Je compris en ce moment les tremblements de terre. Un cliquetis pareil à celui que feraient toutes les porcelaines de Sèvres jetées par la fenêtre me fit parfaitement comprendre que de tous les vitraux de la chapelle, de toutes les glaces du château, de toutes les vitres des casernes et du bourg, il ne restait plus un morceau de verre attaché au mastic. La fumée blanche se dissipa en petites couronnes. La poudre est très bonne quand elle fait des couronnes comme celle-là, me dit Timoléon en entrant tout habillé et armé dans ma chambre. Eh, me semble, dis-je, que nous sautons. Ne dis pas le contraire, me répondit-il froidement. Il n'y a rien à faire jusqu'à présent. En 3 minutes, je fus comme lui, habillé et armé, et nous regardâmes en silence le silencieux château. Tout d'un coup, 20 brambours battirent la générale. Les murailles sortaient de leur stupeur et de leur impassibilité et appelaient à leur secours. Les bras du pont-levis commencèrent à s'abaisser lentement et descendirent leurs pesantes chaînes sur l'autre bout du fossé. C'était pour faire entrer les officiers et sortir les habitants. Nous courûmes à la herse, elle s'ouvrait pour recevoir les forts et rejeter les faibles. Un singulier spectacle nous frappa. Toutes les femmes se pressaient à la porte et en même temps tous les chevaux de la garnison. Par un juste instinct du danger, ils avaient rompu leur licol à l'écurie ou renversé leurs cavaliers et attendaient, en piaffant, que la campagne leur fût ouverte. Ils couraient par les cours à travers les troupeaux de femmes, hennissant avec épouvante, la crinière hérissée, les narines ouvertes, les yeux rouges, se dressant debout contre les murs, respirant la poudre et cachant dans le sable leurs naseaux brûlés. Une jeune et belle personne, roulée dans les draps de son lit, suivie de sa mère à demi vêtue et portée par un soldat, sortit la première et toute la foule suivit. Dans ce moment, cela me parut une précaution bien inutile, la terre n'était sûre qu'à 6 lieues de là. Nous entrâmes en courant, ainsi que tous les officiers logés dans le bourg. La première chose qui me frappa fut la contenance calme de nos vieux grenadiers de la garde, placés au poste d'entrée. L'arme au pied et appuyé sur cette arme, il regardait du côté de la poudrière en connaisseur, mais sans dire un mot ni quitter l'attitude prescrite, la main sur la bretelle du fusil. Mon ami Ernest d'Ardache les commandait. Il nous salua avec le sourire à la Henri IV qui lui était naturel. Je lui donnai la main. Il ne devait perdre la vie que dans la dernière Vendée, où il vient de mourir noblement. Tous ceux que je nomme dans ces souvenirs encore récents sont déjà morts. En courant, je heurtai quelque chose qui faillit me faire tomber. C'était un pied humain. Je ne pus m'empêcher de m'arrêter à le regarder. « Voilà comme votre pied sera tout à l'heure, » me dit un officier en passant et en riant de tout son cœur. Rien n'indiquait que ce pied eût jamais été chaussé. Il était comme embaumé et conservé à la manière des momies. Brisé à 2 pouces au-dessus de la cheville, comme les pieds de statues en étude dans les ateliers, poli, veiné comme du marbre noir et n'ayant de rose que les ongles. Je n'avais pas le temps de le dessiner. Je continuais ma course jusqu'à la dernière cour devant les casernes. Là, nous attendaient nos soldats. Dans leur première surprise, ils avaient cru le château attaqué. Ils s'étaient jetés du lit au râtelier d'armes et s'étaient réunis dans la cour, la plupart en chemise avec leurs fusils au bras. Presque tous avaient les pieds ensanglantés et coupés par le verre brisé. Ils restaient muets et sans action devant un ennemi qui n'était pas un homme et virent avec joie arriver leurs officiers. Pour nous, ce fut au cratère même du volcan que nous courûmes. Il fumait encore et une troisième éruption était imminente. La petite tour de la poudrière était éventrée et par ses flancs ouverts, on voyait une lente fumée s'élever en tournant. Toute la poudre de la tourelle était-elle brûlée et en restait-il assez pour nous enlever tous? C'était la question. Mais il y en avait une autre qui n'était pas incertaine. C'est que tous les caissons de l'artillerie, chargés et entr'ouverts dans la cour voisine, sauteraient si une étincelle y arrivait, et que le donjon, renfermant 400 milliers de poudre à canon, Vincennes, son bois, sa ville, sa campagne et une partie du faubourg Saint-Antoine, devait faire jaillir ensemble les pierres, les branches, la terre, les toits et les têtes humaines les mieux attachées. Le meilleur auxiliaire que puisse trouver la discipline, c'est le danger. Quand tous sont exposés, chacun se tait et se cramponne au premier homme qui donne un ordre ou un exemple salutaire. Et le premier qui se jeta sur les caissons fut Timoléon. Son air sérieux et contenu n'abandonnait pas son visage. Mais avec une agilité qui me surprit, il se précipita sur une roue près de s'enflammer. À défaut d'eau, il l'éteignit en découvrant avec son habit et ses mains sa poitrine qu'il y appuyait. On le crut d'abord perdu. Mais en l'aidant, nous trouvâmes la route, la roue noircie et éteinte, son habit brûlé, sa main gauche un peu poudrée de noir, du reste, toute sa personne intacte et tranquille. En un moment, tous les caissons furent arrachés de la cour dangereuse et conduits hors du fort dans la plaine du Polygone. Chaque canonnier, chaque soldat, chaque officier s'attelait, tirait, roulait, poussait les redoutables chariots des mains, des pieds, des épaules et du front. Les pompes inondèrent la petite poudrière par la noire ouverture de sa poitrine. Elle était fendue de tous les côtés. Elle se balança 2 fois en avant et en arrière, puis ouvrit ses flancs comme l'écorce d'un grand arbre, et tombant dans la renverse, découvrit une sorte de four noir et fumant où rien n'avait forme reconnaissable, où toute arme, tout projectile était réduit en poussière rougeâtre et grise, délayée dans une eau bouillante. Sorte de lave où le sang, le fer et le feu s'étaient confondus en mortier vivant et qui s'écroula dans les cours en brûlant l'herbe sur son passage. C'était la fin du danger. Restait à se reconnaître et à se compter. « On a dû entendre cela de Paris, » me dit Timoléon en me serrant la main. « Je vais lui écrire pour la rassurer, il n'y a plus rien à faire ici. » Il ne parla plus à personne et retourna dans notre petite maison blanche au volet vert, comme s'il fût revenu de la chasse. Chapitre 9. Un dessin au crayon. Quand les périls sont passés, on les mesure et on les trouve grands. On s'étonne de sa fortune. On pâlit de la peur qu'on aurait pu avoir. On s'applaudit de s'être laissé surprendre à aucune faiblesse. Et l'on sent une sorte d'effroi réfléchi et calculé auquel on n'avait pas songé dans l'action. La poudre fait des prodiges incalculables comme ceux de la foudre. L'explosion avait fait des miracles, non pas de force, mais d'adresse. Elle paraissait avoir mesuré ses coups et choisi son but. Elle avait joué avec nous. Elle nous avait dit « Oh, j'enlèverai celui-ci, mais non ceux-là qui sont auprès. » Elle avait arraché de terre une arcade de pierre de taille et l'avait envoyée tout entière avec sa forme sur le gazon dans les champs, se coucher comme une ruine noircie par le temps. Elle avait enfoncé 3 bombes à 6 pieds sous terre, broyé des pavés sous des boulets, brisé un canon de bronze par le milieu, jeté dans toutes les chambres, toutes les fenêtres, toutes les portes, enlevé sur tous les toits les volets de la grande poudrière, sans un grain de sa poudre. Elle avait roulé 10 grosses bornes de pierre, comme les pions d'un échiquier renversé. Elle avait cassé les chaînes de fer qui les liaient, comme on casse des fils de soie, et en avait tordu les anneaux, comme on tord le chanvre. Elle avait labouré sa cour avec les affûts brisés et incrusté dans les pierres les pyramides de boulets, et sous le canon le plus prochain de la poudrière détruite, elle avait laissé vivre la poule blanche que nous avions remarquée la veille. Quand cette poule sortit paisiblement avec ses petits, les cris de joie de nos bons soldats l'accueillirent comme une ancienne amie, et ils se mirent à la caresser avec l'insouciance des enfants. Elle tournait en coquetant, en rassemblant ses petits, et portant toujours son aigrette rouge et son collier d'argent. Elle avait l'air d'attendre le maître qui lui donnait à manger et courait tout affarée entre nos jambes, entourée de ses poussins. En la suivant, nous arrivâmes à quelque chose d'horrible. Au pied de la chapelle étaient couchées la tête et la poitrine du pauvre adjudant, sans corps et sans bras. Le pied que j'avais heurté avec mon pied en arrivant, c'était le sien. Ce malheureux, sans doute, n'avait pas résisté au désir de visiter encore ses barils de poudre et de compter ses obus. Et, soit le fer de ses bottes, soit un caillou roulé, quelque chose, quelque mouvement avait tout enflammé. Comme la pierre d'une fronde, sa tête avait été lancée avec sa poitrine sur le mur de l'église à 60 pieds d'élévation, et la poudre dont ce buste effroyable était imprégné avait gravé sa forme en trait durable sur la muraille au pied de laquelle il retomba. Nous le contemplâmes longtemps et personne ne dit un mot de commisération. Peut-être parce que le plaindre eût été se plaindre ou se prendre soi-même en pitié pour avoir couru le même danger. Le chirurgien-major seulement dit « Oh, il n'a pas souffert ». Pour moi, il me semble qu'il souffrait encore. Mais malgré cela, moitié par une curiosité invincible, moitié par bravade d'officier, je le dessinais. Les choses se passent ainsi dans une société d'où la sensibilité est retranchée. C'est un des côtés mauvais du métier des armes que cet excès de force où l'on prétend toujours guinder son caractère. On s'exerce à durcir son cœur, on se cache de la pitié de peur qu'elle ne ressemble à la faiblesse. On se fait effort pour dissimuler le sentiment divin de la compassion, sans songer qu'à force d'enfermer un bon sentiment, on étouffe le prisonnier. Je me sentis en ce moment très haïssable. Mon jeune cœur était gonflé du chagrin de cette mort, et je continuais pourtant, avec une tranquillité obstinée, le dessein que j'ai conservé, et qui tantôt m'a donné des remords de l'avoir fait, et tantôt m'a rappelé le récit que je viens d'écrire et la vie modeste de ce brave soldat. Cette noble tête n'était plus qu'un objet d'horreur, une sorte de tête de méduse. Sa couleur était celle du marbre noir. Les cheveux hérissés, les sourcils relevés vers le haut du front, les yeux fermés, la bouche béante comme jetant un cri. On voyait, sculpté sur ce buste noir, l'épouvante des flammes subitement sorties de terre. On sentait qu'il avait eu le temps de cet effort aussi rapide que la poudre, et peut-être le temps d'une incalculable souffrance. « A-t-il eu le temps de penser à la Providence ?» me dit la voix paisible de Timoléon d'Arc. qui par-dessus mon épaule me regardait dessiner avec un lorgnon. En même temps, un joyeux soldat, frais, rose et blond, se baissa pour prendre à ce tronc enfumé sa cravate de soie noire. « Elle est encore bien bonne, dit-il. » C'était un honnête garçon de ma compagnie, nommé Muguet, qui avait deux chevaux sur le bras, point de scrupule ni de mélancolie, et au demeurant le meilleur fils du monde. Cela rompit nos idées. Un grand fracas de chevaux nous vint enfin distraire. C'était le roi. Louis XVIII venait en calèche remercier sa garde de lui avoir conservé ses vieux soldats et son vieux château. Il considéra longtemps l'étrange lithographie de la muraille. Toutes les troupes étaient en bataille. Il éleva sa voix forte et claire pour demander au chef de bataillon quels officiers ou quels soldats s'étaient distingués. « Tout le monde a fait son devoir, sire, » répondit simplement M. de Fontange, le plus chevaleresque et le plus aimable officier que j'ai connu, l'homme du monde qui m'a le mieux donné l'idée de ce que peut-être dans leur manière le duc de Lauzun et le chevalier de Grammont. Là-dessus, au lieu d'une croix d'honneur, le roi ne tira de sa calèche que des rouleaux d'or qu'il donna à distribuer pour les soldats, et, traversant Vincennes, sorti par la porte du bois. Les rangs étaient rompus, l'explosion oubliée. Personne ne songea à être mécontent et ne crut avoir mieux mérité qu'un autre. Au fait, c'était un équipage sauvant son navire pour se sauver lui-même, voilà tout. Cependant, j'ai vu depuis de moindres bravoures se faire mieux valoir. Je pensais à la famille du pauvre adjudant, mais j'y pensais seul. En général, quand les princes passent quelque part, ils passent trop vite.
Dans Servitude et grandeur militaire, Vigny imagine qu'un officier peu favorable à l'empereur assiste caché dans une alcôve à l'entretien de ce dernier et du pape Pie VII venu à Fontainebleau pour le sacre. L'officier relate la scène. Le pape vient d'arriver dans le château.
J'entendis les talons de l'empereur résonner en même temps que le tambour. J'eus le temps à peine de me jeter dans l'alcôve d'un grand lit de parade qui ne servait à personne, fortifié d'une balustrade de prince et fermé heureusement plus qu'à demi par des rideaux semés d'abeilles. L'empereur était fort agité. Il marcha seul dans la chambre comme quelqu'un qui attend avec impatience et fit en un instant trois fois sa longueur, puis s'avança vers la fenêtre et se mit à y tambouriner une marche avec les ongles. Une voiture roula dans la cour. Il cessa de battre, frappa ses pieds deux ou trois fois comme impatienté de la vue de quelque chose qui se faisait avec lenteur, puis alla brusquement à la porte et l'ouvrit au pape. Pie VII entra seul. Bonaparte se hâta de refermer la porte derrière lui avec une promptitude de geôlier. Je sentis une grande terreur, je l'avoue, en me voyant entière avec de tels gens. Cependant, je restais sans voix et sans mouvement, regardant et écoutant de toute la puissance de mon esprit. Le pape était d'une taille élevée. Il avait un visage allongé, jaune, souffrant, mais plein d'une noblesse sainte et d'une bonté sans bornes. Ses yeux noirs étaient grands et beaux. Sa bouche était entr'ouverte par un sourire bienveillant auquel son menton avancé donnait une expression de finesse très spirituelle et très vive, sourire qui n'avait rien de la sécheresse politique, mais tout de la bonté chrétienne. Une calotte blanche couvrait ses cheveux longs noirs, mais sillonnés de larges mèches argentées. Il portait négligemment sur ses épaules courbées un long camail de velours rouge, et sa robe traînait sur ses pieds. Il entra lentement, avec la démarche calme et prudente d'une femme âgée. Il vint s'asseoir, les yeux baissés, sur un des grands fauteuils romains dorés et chargés d'aigles, et attendit ce que lui allait dire l'autre Italien. « Ah, monsieur, quelle scène, quelle scène ! Ah, je la vois encore. Ce ne fut pas le génie de l'homme qu'elle me montra, mais ce fut son caractère, et si son vaste esprit ne s'y déroula pas, du moins son cœur y éclata. » Bonaparte n'était pas alors ce que vous l'avez vu depuis. Il n'avait point ce ventre de financier, ce visage joufflu et malade, ces jambes de goutteux, tout cet infirme embonpoint que l'art a malheureusement saisi pour en faire un type, selon le langage actuel, et qui a laissé de lui à la foule je ne sais quelle forme populaire et grotesque qui le livre aux jouets d'enfants et le laissera peut-être un jour fabuleux et impossible comme l'informe Polichinelle. Non, il n'était point ainsi alors, monsieur, mais nerveux et souple, mais leste, vif et élancé, convulsif dans ses gestes, gracieux dans quelques moments, recherché dans ses manières, la poitrine plate et rentrée entre les épaules, et tel encore que je l'avais vu à Malte, le visage mélancolique et effilé. Il ne cessa point de marcher dans la chambre quand le pape fut entré. Il se mit à rôder autour du fauteuil comme un chasseur prudent, et s'arrêtant tout à coup en face de lui, dans l'attitude roide et immobile d'un caporal, il reprit une suite de la conversation commencée dans leur voiture, interrompue par l'arrivée, et qui lui tardait de poursuivre. « Je vous le répète, Saint-Père, je ne suis point un esprit fort, moi, et je n'aime pas les raisonneurs et les idéologues. Je vous assure que, malgré mes vieux républicains, j'irai à la messe. » Il jeta ces derniers mots brusquement au pape comme un coup d'encensoir lancé au visage et s'arrêta pour en attendre l'effet, pensant que les circonstances tant soit peu impies qui avaient précédé l'entrevue devaient donner à cet aveu subit et net une valeur extraordinaire. Le pape baissa les yeux et posa ses deux mains sur les têtes d'aigle qui formaient les bras de son fauteuil. Il parut, par cette attitude de statue romaine qu'il disait clairement, « Je me résigne d'avance à écouter toutes les choses profanes qu'il lui plaira de me faire entendre. » Bonaparte fit le tour de la chambre et du fauteuil qui se trouvait au milieu, et je vis, au regard qu'il jetait de côté sur le vieux pontife, qu'il n'était content ni de lui-même ni de son adversaire, et qu'il se reprochait d'avoir trop lestement débuté dans cette reprise de conversation. Il se mit donc à parler avec plus de suite, en marchant circulairement et jetant à la dérobée des regards perçants dans les glaces de l'appartement où se réfléchissait la figure grave du Saint-Père, et le regardant en profil quand il passait près de lui, mais jamais en face, de peur de sembler trop inquiet de l'impression de ses paroles. « Il y a quelque chose, dit-il, qui me reste sur le cœur, Saint-Père. C'est que vous consentez au sacre de la même manière que l'autre fois au concordat, comme si vous y étiez forcé. Vous avez un air de martyr devant moi, vous êtes là comme résigné, comme offrant au ciel vos douleurs. Mais en vérité, ce n'est pas là votre situation. Vous n'êtes pas prisonnier, par Dieu, vous êtes libre comme l'air. » Bicette sourit avec tristesse et le regarda en face. Il sentait ce qu'il y avait de prodigieux dans les exigences de ce caractère despotique, à qui, comme à tous les esprits de même nature, il ne suffisait pas de se faire obéir si, en obéissant, on ne semblait encore avoir désiré ardemment ce qu'il ordonnait. « Oui, reprit Bonaparte avec plus de force, vous êtes parfaitement libre. Vous pouvez vous en retourner à Rome. La route vous est ouverte, personne ne vous retient. » Le pape soupira et leva sa main droite et ses yeux au ciel sans répondre. Ensuite, il laissa retomber très lentement son front ridé et se mit à considérer la croix d'or suspendue à son cou. Bonaparte continua à parler en tournoyant plus lentement. Sa voix devint douce et son sourire plein de grâce.
Saint-Père, si la gravité de votre caractère ne m'en empêchait, je dirais en vérité que vous êtes un peu ingrat. Vous ne paraissez pas vous convenir assez des bons services que la France vous a rendus. Le conclave de Venise, qui vous a élu pape, m'a un peu l'air d'avoir été inspiré par ma campagne d'Italie et par un mot que j'ai dit sur vous. L'Autriche ne vous traita pas bien alors, et j'en fus très affligé. Votre sainteté fut, je crois, obligée de revenir par mer à Rome, faute de pouvoir passer par les terres autrichiennes. Il s'interrompit pour attendre la réponse du silencieux hôte qu'il s'était donné. Mais Picette ne fit qu'une inclination de tête presque imperceptible et demeura comme plongé dans un abattement qui l'empêchait d'écouter. Bonaparte, alors, poussa du pied une chaise près du grand fauteuil du pape. Je tressaillis parce que, en venant chercher ce siège, il avait effleuré de son épaulette le rideau de l'alcôve où j'étais caché. Ce fut, en vérité, continua-t-il, comme catholique que cela m'affligea. Je n'ai jamais eu le temps d'étudier beaucoup la théologie, moi. Mais j'ajoute encore une grande foi à la puissance de l'Église. Elle a une vitalité prodigieuse. Saint-Père, Voltaire vous a bien un peu entamé, mais je ne l'aime pas. Et je vais lâcher sur lui un vieil oratorien défroqué. Vous serez content, allez, tenez. Nous pourrions, si vous voulez, faire bien des choses à l'avenir. Il prit un air d'innocence et de jeunesse très caressant. Moi, je ne sais pas. J'ai beau chercher, je ne vois pas bien, mais pourquoi vous auriez de la répugnance à siéger à Paris pour toujours? Je vous laisserai, ma foi, les Tuileries, si vous voulez. Vous y trouveriez déjà votre chambre de Montecavallo qui vous attend. Moi, je séjourne guère. Ne voyez-vous pas bien, padre, que c'est là la vraie capitale du monde? Moi, je ferai tout ce que vous voudriez. D'abord, je suis meilleur enfant qu'on ne croit. Pourvu que la guerre et la politique fatigante me fussent laissées, vous arrangeriez l'Église comme il vous plairait. Je serais votre soldat tout à fait. Voyez, ce serait vraiment beau. Nous aurions nos conciles comme Constantin et Charlemagne. Je les ouvrirais et les fermerais. Je vous mettrais ensuite dans la main les vraies clés du monde. Et comme notre Seigneur a dit « Je suis venu avec l'épée, je garderai l'épée, moi, et je vous l'apporterai seulement à bénir après chaque succès de nos armes. » Il s'inclina légèrement en disant ces derniers mots. Le pape, qui jusqu'alors n'avait cessé de demeurer sans mouvement comme une statue égyptienne, releva lentement la tête à demi baissée, sourit avec mélancolie, leva ses yeux en haut et dit, après un soupir paisible, comme s'il eût confié sa pensée à son ange gardien invisible, « Commediante !» Bonaparte sauta de sa chaise et bondit comme un léopard blessé. Une vraie colère le prit, une de ses colères jaunes. Il marcha d'abord sans parler, se mordant les lèvres jusqu'au sang. Il ne tournait plus en cercle autour de sa proie avec des regards fins et une marche cauteleuse, mais il allait droit et fermement, long et en large, brusquement frappant du pied, faisant sonner ses tablons et prenait. La chambre tressaillit, les rideaux frémirent comme les arbres à l'approche du tonnerre. Il me semblait qu'il allait arriver quelque tempête et grand-chose. Mes cheveux me firent mal, j'y portais la main, malgré moi. Je regardais le pape, il ne remua pas. Seulement, il serra de ses deux mains les têtes d'angle des bras du fauteuil. La bombe éclata tout d'un coup. « Comédien ! Moi, je vous donnerai des comédies à vous faire tous pleurer comme des femmes et des enfants. Comédien, vous n'y êtes pas, si vous croyez qu'on puisse avec moi faire du sang-froid insolent. Mon théâtre, c'est le monde. » Le rôle que j'y joue, c'est celui de maître et d'auteur. Pour comédien, j'ai vous tous, pape, roi, peuple. Et le fil par lequel je vous remue, c'est la peur. Comédien, ah! Il faudrait être d'une autre taille que la vôtre pour m'oser applaudir et siffler. Signor Chiaramonti, savez-vous bien que vous ne seriez qu'un pauvre curé si je le voulais? Vous et votre tiare, la France vous rirait au nez si je ne gardais mon air sérieux en vous saluant. Il y a 4 ans seulement, personne n'eût osé parler tout haut du Christ. Qui donc eût parlé du pape, s'il vous plaît? Comédien, ah, messieurs, vous prenez vite pied chez nous. Vous êtes de mauvaise humeur parce que je n'ai pas été assez sot pour signer, comme Louis XIV, la désapprobation des libertés gallicanes. Mais on ne me pipe pas ainsi. C'est moi qui vous tiens dans mes doigts. C'est moi qui vous porte du midi au nord comme des marionnettes. C'est moi qui fais semblant de vous compter pour quelque chose parce que vous représentez une vieille idée que je veux ressusciter et vous n'avez pas l'esprit de voir cela et de faire comme si vous ne vous en aperceviez pas. Mais non, il faut tout vous dire. Il faut vous mettre le nez sur les choses pour que vous les compreniez. Et vous croyez bonnement que l'on a besoin de vous, et vous relevez la tête, et vous vous drapez dans vos robes de femme? Mais sachez bien qu'elle ne m'en impose nullement, et que si vous continuez, vous, je traiterai la vôtre comme Charles XII celle du grand vizir. Je la déchirerai d'un coup d'éperon. Il se tut. Je n'osais pas respirer. J'avançais la tête, n'entendant plus sa voix tonnante, pour voir si ce pauvre vieillard était mort d'effroi. Le même calme dans l'attitude, le même calme sur le visage. Il leva une seconde fois les yeux au ciel, et après avoir jeté un profond soupir, il sourit avec amertume et dit « Tragediante !» Bonaparte, en ce moment, était au bout de la chambre, appuyé sur la cheminée de marbre aussi haute que lui. Il partit comme un trait, courant sur le vieillard, je crus qu'il l'allait tuer. Mais il s'arrêta court, prit sur la table un vase de porcelaine de Sèvres où le château de Saint-Ange et le capital étaient peints, et le jetant sur les chenets et le marbre, le broya sous ses pieds. Puis tout d'un coup, s'assit, et demeura dans un silence profond et une immobilité formidable. Je fus soulagé. Je sentis que la pensée réfléchie lui était revenue et que le cerveau avait repris l'empire sur les bouillonnements du sang. Il devint triste. Sa voix fut sourde et mélancolique et, dès sa première parole, je compris qu'il était dans le vrai et que ce proté dompté par deux mots se montrait lui-même. Ah, « Malheureuse vie !» dit-il d'abord. Puis il rêva, déchira le bord de son chapeau sans parler pendant une minute encore, et reprit, se parlant à lui seul, au réveil. « C'est vrai !» Tragédien ou comédien, tout est rôle, tout est costume pour moi, depuis longtemps et pour toujours. Quelle fatigue, quelle petitesse, poser, toujours poser, de face pour ce parti, de profil pour celui-là, selon leur idée, leur paraître ce qu'ils aiment que l'on soit, et deviner juste leur rêve d'imbécile. Les placer tous entre l'espérance et la crainte, les éblouir par des dates et des bulletins, par des prestiges de distance et des prestiges de nom, être leur maître à tous et ne savoir qu'en faire. Voilà tout, ma foi, et après ce tout, s'ennuyer autant que je fais, c'est trop fort. Car en vérité, poursuivit-il en se croisant les jambes et en se couchant dans un fauteuil, je m'ennuie énormément. Sitôt que je m'assieds, je crève d'ennui. Je ne chasserai pas 3 jours à Fontainebleau sans périr de langueur. Moi, il faut que j'aille et que je fasse aller Si je sais où je veux être pendu, par exemple. Je vous parle à cœur ouvert. J'ai des plans pour la vie de 40 empereurs. J'en fais un tous les matins et un tous les soirs. J'ai une imagination infatigable. Mais je n'aurai pas le temps d'en remplir deux que je serai usé de corps et d'âme, car notre pauvre lampe ne brûle pas longtemps. Et franchement, quand tous mes plans seraient exécutés, je ne jurerais pas que le monde s'en trouvât beaucoup plus heureux, mais il serait plus beau, et une unité majestueuse régnerait sur lui. Je ne suis pas un philosophe, moi, et je ne sais que notre secrétaire de Florence qui ait eu le sens commun. Je n'entends rien à certaines théories. La vie est trop courte pour s'arrêter. Sitôt que j'ai pensé, j'exécute. On trouvera assez d'explications de mes actions après moi pour m'agrandir si je réussis et me rapétisser si je tombe. Les paradoxes sont là tout près. Ils abondent en France. Je les fais taire de mon vivant, mais après, il faudra voir. N'importe, pour l'affaire de réussir, et je m'entends à cela. Je fais mon Iliade en action, moi, et tous les jours. Ici, il se leva avec une promptitude gaie et quelque chose d'alerte et de vivant. Il était naturel et vrai dans ce moment-là. Il ne songeait point à se dessiner, comme il fit depuis dans ses dialogues de Sainte-Hélène. Il ne songeait point à s'idéaliser et ne composait point son personnage de manière à réaliser les plus belles conceptions philosophiques. Il était lui, lui-même, mis au dehors. Il revint près du Saint-Père, qui n'avait pas fait un mouvement, et marcha devant lui. Là, s'enflammant, riant à moitié avec ironie, il débita ceci à peu près, tout mêlé de trivial et de grandiose selon son usage, en parlant avec une volubilité inconcevable, expression rapide de ce génie facile et prompt qui devinait tout, à la fois sans étude. « La naissance est tout, dit-il. Ceux qui viennent au monde, pauvres et nus, sont toujours des désespérés. Cela tourne en action ou en suicide, selon le caractère des gens. Quand ils ont le courage, comme moi, de mettre la main à tout, ma foi, ils font le diable. Que voulez-vous ? Il faut vivre. Il faut trouver sa place et faire son trou. Moi, je fais le mien comme un boulet de canon. Tant pis pour ceux qui étaient devant moi. Qui faire ? Chacun mange selon son appétit. Moi, j'avais grand faim. Tenez, Saint-Père, à Toulon, j'avais pas de quoi acheter une paire d'épaulettes. Et au lieu d'elles, j'avais une mère et je ne sais combien de frères sur les épaules. Tout cela est placé à présent, assez convenablement, j'espère. Joséphine m'avait épousé comme par pitié, et nous allons la couronner à la barbe de Raguino, son notaire, qui disait que je n'avais que la cape et l'épée. Il n'avait ma foi pas tort. Manteau impérial, couronne, qu'est-ce que tout cela ? Est-ce à moi ? Costume, costume d'acteur. Je vais l'endosser pour une heure et j'en aurai assez. Ensuite, je reprendrai mon petit habit d'officier et je monterai à cheval, toute la vie à cheval. Je ne serai pas assis un jour sans courir le risque d'être jeté à bas du fauteuil. Est-ce donc bien à envier, hein ? Je vous le dis, Saint-Père. Il n'y a au monde que deux classes d'hommes, ceux qui ont et ceux qui gagnent. Les premiers se couchent, les autres se rebutent. Comme j'ai compris cela de bonne heure et à propos, j'irai loin, voilà tout. Il n'y en a que deux qui soient arrivés en commençant à 40 ans, Cromwell et Jean-Jacques. Si vous aviez donné à l'un une ferme et à l'autre 1200 francs et sa servante, il n'aurait ni prêché, ni commandé, ni écrit. Il y a des ouvriers en bâtiment, en couleur, en forme et en phrase. Moi, je suis ouvrier en bataille. C'est mon état. À 35 ans, j'ai déjà fabriqué 18 qui s'appellent Victoire. Il faut bien qu'on me paye mon ouvrage. Et le payer d'un trône, ce n'est pas trop cher. D'ailleurs, je travaillerai toujours. Vous en verrez bien d'autres. Vous verrez toutes les dynasties datées de la mienne, tout parvenu que je suis et élu comme vous, Saint-Père, et tiré de la foule, sur ce point, nous pouvons nous donner la main. » Et s'approchant, il tendit sa main blanche et brusque vers la main décharnée et timide du bon pape, qui, peut-être attendri par le ton de bonhomie de ce dernier mouvement de l'empereur, peut-être par un retour secret sur sa propre destinée et une triste pensée sur l'avenir des sociétés chrétiennes, lui donna doucement le bout de ses doigts, tremblant encore de l'air d'une grand-mère qui se raccommode avec un enfant qu'elle avait eu le chagrin de gronder trop fort. Cependant, il secoua la tête avec tristesse, et je vis rouler de ses beaux yeux une larme qui glissa rapidement sur sa joue livide et desséchée. Elle me parut le dernier adieu du christianisme mourant qui abandonnait la terre à l'égoïsme et au hasard. Bonaparte jeta un regard furtif sur cette larme arrachée à ce pauvre cœur, et je surpris même d'un côté de sa bouche un mouvement rapide qui ressemblait à un sourire de triomphe. En ce moment, cette nature toute puissante me parut moins élevée et moins exquise que celle de son saint adversaire. Cela me fit rougir sous mes rideaux de tous mes enthousiasmes passés. Je sentis une tristesse toute nouvelle en découvrant combien la plus large grandeur politique pouvait devenir petite dans ces froides ruses de vanité, ces pièges misérables et ces noirceurs de rouée. Je vis qu'il n'avait rien voulu de son prisonnier et que c'était une joie tacite qu'il s'était donnée de n'avoir pas faibli dans ce tête-à-tête et s'étant laissé surprendre à l'émotion de la colère, de faire fléchir le captif sous l'émotion de la fatigue, de la crainte et de toutes les faiblesses qui amènent un attendrissement inexplicable sur la paupière d'un vieillard. Il avait voulu avoir le dernier et sorti sans ajouter un mot aussi brusquement qu'il était entré. Je ne vis pas s'il avait salué le pape. Je ne le crois pas.